attend avec impatience pour qu'il reprenne le flambeau. Mais avant de ça, je voudrais dire que tout de suite, en première, au début de cette deuxième partie, il y a un petit banc de son qui va passer et qui est particulièrement intéressant parce que d'abord c'est un travail futur qui n'a pas encore commencé. Et en même temps, c'est le futur, parce que c'est des enfants qui ont travaillé ça. C'est une histoire, comme Cathy, j'allais dire, les aime bien, puis comme c'est souvent des histoires qui naissent avec Cathy. Un jour, on a Tony invité, et lui, il lit un morceau de La Parole Errante, le page. Il y avait un instituteur qui était là, qui s'appelait Prochy. Donc, il était un peu timide, il avait regardé, il dit bonjour, etc. Mais il a acheté le livre, et puis il a été dans sa classe, et il a commencé la classe. Alors, c'est un instituteur, donc à Lux, dans la banlieue ouvrière de Thionville. C'est un instituteur qui est avec des enfants, CM1, CM2, donc il a commencé à lire La Parole Errante. Et très sérieusement, morceau par morceau, et ça a été. Ça a été exceptionnel, les enfants ont écrit à Cathy, Cathy leur a répondu, leur a envoyé un livre, et il y a 1768 pages. Les gamins dans la rue se promenaient avec le livre, en disant, il y a même eu un livre pareil, mais surtout, ils commençaient à connaître le livre. Et cet instituteur a pendant un an fait tout un travail, dont d'ailleurs, à la sortie, il y a inauguré un livre qui s'appelle SOS, et qui raconte ce travail, et vous pourrez, si vous voulez, l'acheter. Je ferme la parenthèse, je suis dans mon rôle. Et puis, il y a une personne qui est ici dans cette salle, qui s'appelle Aline Solers, et qui a pris, qui travaille à Marseille sur une radio, Radio Grenouille, qui depuis de nombreuses années a fait toute une série d'émissions autour de Cathy, qu'on avait connu en 1993 à l'occasion de la création à Marseille du Champ d'amour de la famille de Chic, qui s'est appelé à Marseille avant quoi. Et elle a pris contact avec Yutz, elle a commencé à faire une émission de radio, puis le travail étant, la réaction des enfants étant passionnante, elle connaissait des instituts à Marseille qui avaient envie de travailler autour de. Et puis on a rencontré cet institut de Marseille, qui s'appelait Fatima, et qui a travaillé avec ses enfants aussi, pareil, même classe. Sur Cathy Yassi, j'ai insisté en premier, mais Cathy d'abord, Cathy Yassi. Et puis il y avait une jeune femme, une jeune fille qui était là, qui était un peu plus vieille que les autres, elle était arrivée, c'est une Algérienne, elle avait 9 ans en France, et quand on l'a rencontrée, elle avait 12 ans. Et puis Cathy parlait, tout à l'heure vous avez vu, elle a parlé avec émotion, ce qui est toujours ce cas quand je parle de ses morts, de ses. Et cet enfant, elle dit, est-ce qu'on peut amener nos ancêtres, nos morts, qui Et elle dit, bon, voilà, ben, moi je voudrais amener Henri Michaud. C'était pas préparé, c'était effectivement cet enfant de 12 ans était en train de découvrir la langue française. C'est une vraie histoire de Cathy par rapport à la langue. Cet enfant de 12 ans, 13 ans maintenant, est en train de découvrir la langue française à travers des auteurs, des grands auteurs de la langue française. Et puis, un travail a commencé à se développer à Marseille, et puis un projet, et puis le projet est en train de naître doucement, on va sûrement commencer à lancer le projet à partir du mois de février, et il y a un livre qui est aussi à la sortie, qui est un livre de Marc Travers, dans lequel il y a des poèmes d'Armand Yatti, dont certains ont été lus ici, vont être lus. Et on a offert ce livre à tous ces enfants, on leur a dit, bon, vous choisissez un texte, et Cathy leur a dit, et la question c'est, qu'est-ce que c'est ce poème vient foutre dans votre vie. Et donc à partir de là, le lendemain, ils avaient tous lu le livre, du début jusqu'à la fin, ils avaient tous choisi un poème. Il y en avait même un petit malin, celui-là. Mais il a été rattrapé après. Il avait dit à Aline Solers, « Ah, moi j'ai choisi la page 44 et 45. » Et elle dit, « Ah, c'est bien, Et puis après, elle a regardé que la page 44 et 45, c'était deux photos. Voilà. Et donc, ces enfants qui maintenant sont dans. Certains sont encore à l'école primaire, d'autres sont rentrés à un collège, ça s'appelle Versailles. Le collège Versailles, c'est le quartier défavorisé de Marseille. Bon, ça va. Et donc, ils ont fait un travail que Aline Solers nous a amené et que vous allez entendre aussi. Et donc, le petite présentation de ce travail, que je voulais un peu expliquer, comme ça que vous en compreniez bien, l'apport de ces enfants à ce moment-là et pour Eric Gatti, le rapport que l'on entretient avec eux et le projet qu'on va développer dans les mois qui viennent à Marseille. Donc, de Yutz, de Marseille et du Monde, les oiseaux, puisque le groupe s'appelle les oiseaux, sont en rendez-vous du poète et du combattant pour changer le passé, le présent et le futur ensemble. Voilà. Madame Carole, si vous voulez.
Dis en rêvant, pourquoi ne construis-tu pas la tour de Babel ?
Cette histoire commence à l'école, dans une classe. Vous voyez ce que c'est une classe ? Des murs, des bancs. Sur ces bancs, il y a un enfant. De loin, le maître, en voyant le dessin de l'enfant qui était bon, s'est dit : mais qu'est-ce que c'est qu'il a encore fait ? C'est ça, gribouillé, comme d'habitude. Il l'a posé, mais il ne l'a pas dit. C'était un vieux maître et il savait qu'il s'était trompé souvent.
C'est mon patient, c'est. Ah non, vraiment, c'est pas verni. Depuis mon enfance, jamais rien ne m'a réussi. Toutes les fois que j'espère être millionnaire, l'argent fait la paire et je reste sur le radis. C'est le manque pas de chance, alors vraiment, vraiment, c'est pas vernis.
Nous ne voulons plus que l'homme soit plus petit que l'homme, que son regard se brise sur la lumière du jour.
Contrairement à Gatti, ça a tout changé. Tout. Avant, je m'intéressais qu'à moi, à ma famille. Maintenant, je m'intéresse au monde, à la vie, au futur. Il veut faire découvrir l'homme et voilà. Il n'y a pas que ça qui me touche. Gatti, tout. Son émotion, sa joie de vivre et tout, voilà.
J'ai choisi le texte « Le chant du départ » et je vais lire l'extrait que j'ai choisi. Nous continuons à marcher comme si marcher était le but à atteindre. Je m'appelle Faisal. J'ai choisi le texte « Le chant du départ » parce que ça parle du carnaval. Et puis, il y a des mots que je comprends pas, que j'aimerais les comprendre.
Les trajets sont la vision des oiseaux et l'oiseau a disparu dans le trajet.
Gatti veut dire pour moi bonheur. Et aussi, vous êtes vous-même mon bonheur de l'histoire et de la poésie.
Le salut du printemps marquant la révolution.
Ça parle de nous.
Le salut à l'écrivain qui transmet des mots. Le salut à l'écrivain qui joue avec les mots.
Le salut d'un oiseau sera la paix.
Salut Gatti, j'admire ta manière d'écrire. Mais j'aime par-dessus tout comment tu t'exprimes envers un enfant comme un adulte.
J'ai écrit dans une autre feuille.
Où poser la tête ? Est-ce ciel ? Est-ce ciel parce qu'il n'y a plus la terre ? Sans une aile, sans un duvet. Sans une plume d'oiseau, sans une buée, strictement, uniquement ciel, un ciel parce qu'il n'y a plus la terre.
Bon anniversaire, Rapunzel, toi le plus grand oiseau de tout le monde.
Le salut d'un poète qui se nomme Gatti. Le salut d'un théâtre qui crée une scène. Le salut d'un groupe d'oiseaux qui ne dit que des syllabes de mots. Le salut de la liberté qui nous rend fiers. Le salut de la lecture signifie la connaissance.
Liberté, essayons le ratatitus
et toujours un plus, le texte de l'avenir est un petit soupir.
Le salut au poète Gatti qui m'apporte que du bonheur dans mon cœur. Le salut à la poésie qui peut être comme un homme vivant. Le salut de la révolution qui offre la paix au monde entier.
L'avenir joue entre nous pour passer dans le futur, pour donner que du bonheur entre le passé et le futur. Alors pourquoi tout ce temps-là ne passe pas?
C'est un cadeau qui sort pour te saluer joyeusement. Le salut d'un personnage imaginaire qui dit « Bon anniversaire, Angoulevent !»
Michel Dubois ne pouvant finalement pas être là ce soir, c'est Roland Monod qui lira un extrait de L'Homme seul, qu'il a joué sous sa direction en 1966.
Longue vie à toi, Dante. Nous étions à Marseille, normalement, on avait annoncé que je devais vous lire un extrait du Voyage du Grand Chou. Et j'en étais particulièrement heureux parce que cette pièce que nous avons créée à Marseille, au Théâtre Quotidien, en 1962, est une pièce assez exceptionnelle dans le Théâtre du Gatti. Elle tient un peu la place que tenaient autrefois les drames satiriques ou Dionysie antique, quand on demandait aux poètes de présenter trois tragédies et un drame satirique, le drame satirique étant un poème pathétique, dramatique et burlesque, où Choreut et Coryphée n'étaient ni hommes ni bêtes. Et c'est en fait exactement l'histoire du Voyage du Grand Chou, qui a une version triviale et une version poétique. La version triviale, c'est tout bêtement l'histoire de l'enterrement du maire d'un petit village qui est une sorte de cloche-merle. Mais ce maire avait une chatte qui s'appelait Cruelle. Et on voit en même temps, dans le déroulement de la pièce, la version en ombre chinoise qui est celle des hommes et la version poétique qui est l'interprétation qu'en donne la chatte Cruelle. Et je le dis, cette pièce a été l'occasion d'une rencontre avec celle qui est devenue, qui jouait Cruelle et qui est devenue la compagne de ma vie. Par conséquent, c'est un souvenir important. Et c'est pour ça que je voulais donner un extrait, un poème. Mais lorsque j'ai su que Michel Dubois ne viendrait pas et que par conséquent il ne lirait pas et ne vous parlerait pas de ce qui a été une expérience capitale pour lui, comme pour nous, comme pour Hélène et moi, à savoir la création d'Un homme seul à la Comédie de Saint-Étienne, je me suis dit qu'une soirée comme celle-là, d'hommage et de souvenir, ne pouvait pas se passer sans parler d'Un homme seul, qui est, c'est mon cœur qui parle, mais qui est la plus belle, la plus grande pièce de la vie. Et en plus, c'est une pièce qui a été d'une telle importance pour nous tous. D'abord parce que Dante a répondu à l'appel de Jean Basté, qui nous a quittés, et que cette création s'est faite avec un certain nombre de camarades qui nous ont quittés. Je pense à Hubert Monloup, je pense à Pierre Mérand, je pense à Jean Louberti, je pense à Liliane Brossard, et peut-être que j'en oublie. Mais un homme seul. Déjà dans Un Grand Chou, j'avais appris qu'il n'y avait pas de défaite qui, à force d'être recommencée, ne pouvait pas déboucher un jour sur une victoire. En fait, c'est la réponse à la question qu'on posait, je crois, au tout jeune Gatti, quand il s'était fait arrêter dans le maquis de Corrèze, lorsque donc un gendarme, voyant que tu traînais avec toi un petit cahier, toujours te demandait « Pourquoi écris-tu » et que tu lui avais répondu fièrement, avec crânement, « J'écris pour changer le passé. » Et bien déjà, la chatte Cruelle, elle aussi, réécrivait l'enterrement de M. le maire pour changer le passé et pour lui permettre, au-delà de la boîte et du cercueil, de retrouver le grand chou, le chat qui avait disparu, pour découvrir le nouveau monde. Et là, dans Un homme seul, ben, il s'agit aussi d'une bataille perdue, mais perpétuellement recommencée, jusqu'à ce que l'avenir, et l'avenir pour nous contemporains, fait partie, j'allais dire, de notre présent lui-même, de notre proche passé, nous savons qu'en fait, la victoire perdue s'est terminée par une victoire. La bataille perdue. Alors, je vais vous lire un petit bout. Je vais évoquer comme ça plein de souvenirs de ceux, les deux rôles que je vais lire à la fin de Li Cheyu, le combattant, ballotté par les événements, admis, exclu du parti. Le rôle de Li Cheyu a été créé par Pierre Santini et le rôle de Tsu Zhen a été créé par Pierre Lescot. Nous sommes dans une des 200 cavernes de la montagne Longchen. Tsu Zhen. Non, ce n'était pas le froid. C'était plutôt le silence qu'il y a dans le froid. Au bout d'une semaine, il a commencé à m'obséder. Je marchais, et au-dessus de moi, il y avait encore moi qui regardais marcher. L'attente devenait en quelque sorte double. Il y avait deux Tsu Zhen qui attendaient et qui ne savaient plus pourquoi ils attendaient. Li Cheyu. Dors, Tsu Zhen. Nous avons rendez-vous avec la bataille des sept jours et des sept nuits, même si nous ne savons pas en quel endroit de l'histoire des autres elle nous attend. Je vais faire la tournée d'inspection. Dors. Tsu Zhen, seul dans la caverne. Seigneur du tribunal imaginaire, c'est Tsu Zhen qui vous convoque. Vous ne venez jamais pour moi. Que Cheyu vous voit, c'est juste. Mais moi, suis-je donc si méprisable? Oh, je sais, marchant, j'ai commencé, marchant, je finirai. Mais entre-temps, n'ai-je pas laissé mon inventaire poursuivre, Cheyu? Je suis le seul à l'avoir suivi jusqu'au bout. Il y a des hommes qui sont faits pour vous donner la joie. Malheureusement, la joie brûle. Moi, que ma petitesse a toujours consterné, il me fallait une rallonge pour être un homme entier. Frère Cheyu, c'était cette rallonge. En 3 ans, il m'a fait vivre 100 années de ma vie. Oui, lorsqu'il ronflait couché sur le dos, c'était un plaisir. Le même ronflement venant d'un autre aurait été insupportable pour les nerfs. Lorsqu'il avait un rhume, je trouvais que le rhume était la marque indispensable de tout homme vrai. Ou ta chien me disait, tu es comme un caniche à ses pieds. J'étais heureux qu'il me dise cela. Seigneur du tribunal imaginaire, cette joie n'a rien à voir avec le beignet de riz et d'arachide qu'on met sous la dent. Elle brûle. J'ai toujours été l'ombre qui suit la voiturette du légumier. Mais la nuit vient, elle est venue, elle est là, et l'ombre n'est plus rien. Personne n'a jamais été indispensable à frère Cheyu. Mais moi, je peux l'être. Pas en partageant sa solitude, bien sûr, je ne partage rien du tout. Vous savez bien que jusqu'à Kaïson, dans le Grand Nord, près de la statue du héros, on met toujours celle du traître. On ne peut parler de l'un sans parler de l'autre. À l'un, on apporte des fleurs, sur l'autre, on crache, mais ils sont inséparables. Ils sont la même personne dans le paysage. Li Cheyu revient dans la caverne. Tu ne dors pas? Pardonne-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Une devinette qui me trottait dans la tête. Que voulait dire le bonze Les Anglos lorsque nous sommes allés chercher des plants d'arbres? Dans le vide pur des vies générales, il faut savoir attendre l'investiture des saints pouvoirs sacrés. Cela veut dire que le bon cherchait quelque chose, et comme il ne le trouvait pas, il attendait que ce quelque chose le trouve. Dis, qu'est-ce que tu regrettes, ta femme ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tes enfants, ton père, je ne regrette rien. Et les camarades, pourquoi les regretterais-je ? Mais eux, la femme, le camarade, les enfants, le père, ils ont quand même leur mot à dire. Ils l'ont dit. Et moi, est-ce que tu me regretteras ? Tu as choisi. Dois-je regretter à ta place ? Nietzsche lui éteint la lampe et se couche.
La passion du général Franco parle des émigrés eux-mêmes. Alors ces émigrés eux-mêmes, c'était eux qui envahissaient la Seine, et c'était eux qui, disons, par ironie, indirectement, reproduisaient cette passion où Franco ne mourait pas, mais c'était eux qui étaient en train de mourir dans cette passion tout au long de son dénouement.
La passion du général Franco sera censurée en 1968. Voici dans quelles circonstances.
Malraux a reçu un coup de téléphone à minuit et il m'a rappelé tout de suite après. Et De Gaulle a eu deux mots. Alors c'était son appréciation sur ce que je faisais. Et il lui a dit simplement ces deux mots, c'était « Malraux, qu'est-ce que c'est que ce poète surchauffé ?»
sera recréé quelques années plus tard avec notamment Laurence Février et Didier Sandre. Laurence Février lit Madrid, poème extrait de la première version de la pièce.
Alors comme les enfants aussi bien dit, bon anniversaire à Roulette. Madrid, notre ville, tes enfants te fuient. Tu les as regardés partir, derrière l'amoncellement des ruines, le souvenir de slogans maintenant dérisoires et le phare de nouvelles constructions. Te voilà bête noire enfermée dans toutes les îles du monde. Toi dont les plaintes empoisonnent le sommeil de l'Europe, là où le soleil se couche, et celui de l'Amérique, là où il ne se couche pas. Des lions aux ailes cassées venus du fond des âges essayent de l'abriter dans l'histoire, telle qu'on ne l'écrit plus. Et de chapitre blanc en chapitre inachevé, tu erres à la recherche de tes enfants, notre ville par tant de peines, tant de voyages, tant d'arrêts et tant de gares, tant de neuvièmes mois mis bout à bout comme les graines de rosaire, se terminant toujours sur la même croix.
Cher Armand Gatti, je suis ce soir à Saint-Jean-de-Mont pour une représentation de l'histoire du soldat de Stravinsky et de Ramuse. Je suis sûr que tu aimes bien cette histoire-là. Et je ne peux donc pas être avec vous, avec toi ce soir. Et je voulais te dire ce que peut-être je n'aurais pas osé te dire de vive voix, c'est que cette aventure de la passion du général Franco aux entrepôts Calverson, il y a presque 30 ans maintenant, m'a lié à toi pour toujours. J'ai été pour toi ce fils de ministre en rupture, comme tu dis, Joaquin. Et pour me joindre à la fête de ce soir, à la fête de ces 4 fois 20 ans, j'ai eu envie de de te dire le poème d'un jeune homme de presque 20 ans, que tu aimes, j'en suis sûr. L'automne, déjà. Mais pourquoi regretter un éternel soleil si nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine, loin des gens qui meurent sur les saisons? L'automne. Notre barque élevée dans les brumes immobiles tourne vers le port de la misère, la cité énorme au ciel tachée de feu et de boue. Ah, les haillons pourris, le pain trempé de pluie, l'ivresse, les mille amours qui m'ont crucifié. Elle ne finira donc point cette goule, reine de millions d'âmes et de corps morts et qui seront jugés. Je me revois la peau rongée par la boue et la peste, des vers plein les cheveux et les aisselles, et encore de plus gros vers dans le cœur, étendus parmi des inconnus sans âge, sans sentiment. J'aurais pu y mourir. L'affreuse évocation. J'exècre la misère. Et je redoute l'hiver parce que c'est la saison du confort. Quelquefois je vois au ciel des plages sans fin couvertes de blanches nations en joie. Un grand vaisseau d'or au-dessus de moi ajoute ses pavillons multicolores sous les brises du matin. J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs. Une belle gloire d'artiste et de conteur emportée. Moi, qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Paysan, suis-je trompé? La charité serait-elle sœur de la mort pour moi? Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges et... Allons. Mais pas une main amie. Et où puiser le secours? Du même désert à la même nuit, toujours mes yeux-là se réveillent à l'étoile d'argent, toujours, sans que s'émeuvent les rois de la vie, les trois mages, le cœur, l'âme, l'esprit. Quand irons-nous par-delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition, adorer les premiers, Noël sur la terre, le chant des cieux, la marche des peuples. Esclaves, ne maudissons pas la vie. Voilà, j'ai enregistré ça pour toi ce soir avec les moyens du bord. Je suis essoufflé. On peut faire mieux, on peut faire mieux autrement, mais je t'embrasse de tout cœur. Voilà, vive toi.
L'existence du camp de Tattenberg, l'horloge là va prendre sa dimension obsessionnelle. Pourquoi? Parce que, comme ce l'était d'ailleurs dans l'histoire des camps, c'était l'horloge qui était peinte sur les fausses gares devant lesquelles ont débarqué les personnes qui allaient passer à la chambre à gaz. Alors ces gares avaient pour but de les rassurer. Et dans les derniers moments, pour pas qu'il y ait de mouvement, qu'il n'y ait pas de révolte, ces gares étaient bucoliques à plaisir. Il y avait des fleurs dans des vases à chaque fenêtre. Et au milieu, il y avait cette horloge peinte et qui marquait toujours la même heure et qui était l'heure, hein, du crime répété.
Alors Dante, il y a juste une année, vous étiez à Genève, au théâtre Saint-Gervais, pour assister aux cette possibilité du train 713 en partance d'Auschwitz.
Dans la pièce, il y a un personnage qui meurt au milieu, il s'appelle Stern. C'est un vieux juif, donc avec les autres personnages de la pièce, qui est répatrié du camp. Et il meurt pourquoi ? Parce que simplement, il voulait donner de l'eau à des Allemands qui, eux, sont déportés en Sibérie. Comme il connaît ce que sont les convois, comme il connaît la soif, il veut leur donner de l'eau, et les autres personnages du convoi le lapident pour ça. Mais dans votre théâtre, les personnages ne meurent jamais vraiment. Et Stern avait une obsession dans le train 713. Il voulait absolument que tous les personnages du convoi soient des lettres. Et puis il suffit de prendre le livre, de tourner quelques pages, d'arriver à la pièce suivante, les alphabets d'Auschwitz. Et dans les alphabets d'Auschwitz, tous les personnages sont des alphabets. Donc Stern revient dans les alphabets d'Auschwitz. Alors je voulais en lire un bref passage. Alors, pour la réunion... Alors, pour la réunion de ce soir, nous nous prenons pour qui ? Un rassemblement de parcelles ? C'est peu. Des ailes brisées. On espérait jadis tirer deux principes différents de l'attraction, le sud et le nord. Mais à chaque morceau brisé, on retrouvait les deux pôles inséparables, le sud et le nord. En étant parcelles, nous sommes tout. Un mot dangereux dans lequel se retrouver. C'est quoi notre tout ? Ce soir, à n'en pas douter, ce sera l'innommable. Ah, vous n'avez pas changé depuis notre première réunion. Auschwitz, les mots dont il devrait être fait, non seulement le doute ne vous effleure pas, mais il vous alimente. Ce n'est pas une réunion par surabondance de sens à répandre, c'est au contraire par manque. Ce sera impossible, je vous l'ai déjà dit, avec les témoins du nom qui, pour chaque lettre d'alphabet, quels qu'en soient les silences, ne seront jamais des morts. Il est clair qu'en chacun des trois livres, malgré les commentaires auxquels nous voulons prétendre, les mots et les noms ont perdu leur sens à Auschwitz. Je sais. C'est même la raison pour laquelle j'ai abandonné les rencontres préliminaires à cette réunion. Parmi vous, il y avait l'alphabet révisionniste de la vieille tante, de la vieille taupe. Pour lui, les témoins du nom n'existaient pas. Il n'y avait que les moutons à l'abattoir. Ensuite, les moutons dans ce contexte sont devenus un non-sens, ils ont disparu. Après, les abattoirs, ils ne pouvaient fonctionner sans moutons, ont disparu aussi. Auschwitz est resté, mais comme simple épisode de guerre, la rencontre inévitable et le choc de deux chars d'assaut allant dans deux directions opposées, le passage de la traction à l'essence, à celle du gazogène, pour ne pas abandonner entièrement et pour quelle vraisemblance l'idée du feu. Une aubaine pour les penseurs et les grammairiens de la solution finale, devant une telle magie capable de faire disparaître le lapin dans le chapeau, avec en même temps le chapeau, la main qui empoigne le chapeau, et par besoin de symétrie, sans doute, la main qui tient la baguette, et finalement la baguette elle-même. Ce que même les écrits du commandant du camp d'Auschwitz n'avaient jamais tenté, ni même jugé utile de faire.
Ainsi, le chant d'amour des alphabets d'Auschwitz, dont Eric Salama vient de nous lire un extrait. Les sept possibilités du train 713 en partance d'Auschwitz, qu'il a mis en scène en 2002 au Théâtre Saint-Gervais à Genève. Il y a les victimes de toute guerre, celles du Vietnam notamment, dont parlent les hauts plateaux, et dont Dominique Purcell va nous lire un extrait, puisque c'est ce texte qui est à l'origine de sa rencontre avec Getty en 1968.
Bonsoir Dante. C'est pas tout à fait à l'origine de la rencontre avec Dante, c'est le second cadeau qu'il m'a fait. La première étant la rencontre, et c'était. On s'est rencontrés à Venise en septembre 68. Je venais assister à la mise en scène de la naissance montée par Roland Monod à la Fenice. Et Getty était là, j'avais déjà vu plusieurs pièces pour toi, et on s'est rencontrés, moi j'ai eu le sentiment que pendant 8 jours on ne s'est pas quitté, et ce sentiment-là c'était comme si je buvais du café concentré, je ne dormais plus, mais vraiment c'était exactement ça. Et puis on s'est retrouvés à la rentrée, dans l'atmosphère de l'interdiction de Franco, cette atmosphère d'effervescence après mai 68, et Getty avait écrit une pièce parmi... Il était à la charnière entre justement cette interdiction et les aventures qu'il allait mener ensuite, une série de petites pièces qu'il a regroupées sous le nom de manuel de guérilla, petit manuel de guérilla urbaine. L'infirmière en faisait partie d'ailleurs. Et il y avait cette pièce, moi j'étais un tout jeune prof à l'époque, et j'avais vécu mes 68 dans mon lycée, avec mes élèves, et cette pièce qui s'appelait Au plateau était une pièce brève mais tout à fait étonnante parce qu'elle était écrite en juin et elle faisait historiquement très clairement le lien entre la résistance vietnamienne et mai 68, qui était en effet politiquement juste, c'est-à-dire que c'était les comités Vietnam de base dans les lycées qui avaient ensuite évolué et qui s'était retrouvé sur les barricades et dans la contestation. Cette pièce part d'une chose toute simple, c'est il y a une fille et son père qui est prof d'histoire, prof de génération, et la fille annonce à son père que au lycée on a décidé de tuer le prof d'histoire et de le remplacer par des combattants vietnamiens qui vont nous apprendre enfin l'histoire qui se fait au jour le jour. Et toute la pièce, c'est donc la tentative de cette jeune fille qui s'appelle Ariane, d'abord de contester évidemment directement son historien de père, et aussi de rejoindre sentimentalement, politiquement, enfin, il y a beaucoup de pièces dedans comme ça qui sont des tentatives pour rejoindre. Et donc, les combattants vont vivre, raconter. C'est pas n'importe quel Vietnam, c'est celui du Quang Gai, c'est celui des hauts plateaux, c'est-à-dire celui des tout débuts de la résistance. Et là-dedans, en plus, Getty fait intervenir son vécu, et y compris sa résistance à lui, dans le maquis de Berbérolles, et le trou qu'il a construit dans lequel il a vécu, et qu'on retrouve dans les hauts plateaux. Et là aussi, comme dans L'Homme seul, on retrouve cette thématique des morts, et également de l'homme plus grand que l'homme, et de la résistance. Je vais vous lire les dernières pages qui, à mon avis, résument assez bien tout ça. Swan, c'est le militant qui s'est enterré pendant longtemps pour obtenir petit à petit la confiance des paysans, méfiant au départ. C'est vraiment le tout début de la résistance de la Seconde Guerre du Vietnam. Il y a Swan, il y a Quoc, qui est un paysan du village, il y a Pham, qui est l'ancêtre, un sage, et puis, en contrepoint, évidemment, Ariane et son père. Et c'est la cinquième et dernière leçon. Quoc, ils ont lancé des défoliants. Les arbres de la forêt semblent avoir résisté. Les nôtres, ceux que nous cultivons, y sont tous passés. Ariane, jour de tristesse pour les époux venus de Saïgon. Ils ne doivent pas comprendre pourquoi on s'est attaqué à leur terre. Quoc, les jeunes bananiers sont morts. Sur les autres, les fruits sont devenus d'un seul coup très gros, puis sont tombés à terre, à demi pourris. Les cocotiers ont perdu leur noix. Ariane, pauvres époux venus de Saïgon. Ils vont certainement descendre à l'étane demander des explications, à moins que Ngo ne descende seul en vertu du principe que chaque couple est un éphémère. Il passe des années à l'état de larve, et lorsqu'il prend vie, il ne dure pas plus de 24 heures. Xuan, un éphémère remplace l'autre. La Française t'attendra chez elle pour qu'à défaut de la forêt, vous remplissiez la hutte sur pilotis de Ngo. Peut-être de votre rencontre va éclore une luciole, ma première luciole de la nuit. Xuan, quoi. Xuan est dans son trou, les ratissages ont recommencé. Xuan. Un camarade responsable venu de la plaine pour faire la liaison m'apprend que les deux fils de Quoc et les trois déserteurs sont pris. Peut-être en ce moment sont-ils déjà morts, il vaut mieux que Quoc ne le sache pas encore. Gong. Quoc. Les soldats sont arrivés par le nord du village, là où nos pièges étaient les moins équipés. Surprise totale. Xuan a tout juste eu le temps de disparaître sous l'autel des dieux tutélaires. Pham. Tout le village a dû se rendre sur la place. Nous sommes restés une heure debout à attendre pendant que les soldats fouillaient les paillotes et tuaient une partie du bétail. Après quoi, l'officier nous a annoncé que nous devions abandonner le village pour être regroupés dans les hameaux stratégiques. Nous serions protégés des Viet Cong par les soldats. Quoc leur a répondu comme un chef de tribu. Quoc. Les éléphants de notre troupeau n'aiment pas la discorde. Une querelle avec nos femmes, une dispute avec nos fils, ils s'en vont boudés dans la forêt. Il faut alors les brosser, les câliner, leur souffler dans la trompe pour qu'ils acceptent de revenir. Si après leur apprentissage on les maltraite, ils disparaissent à tout jamais. Pourquoi les tribus de Jarai se refuseraient-elles ce que l'éléphant de leur troupeau s'accorde ? Femme, nous nous sommes tous sentis derrière Quoc. L'officier a dit que puisque Quoc voulait être traité en animal, satisfaction lui serait donnée. Il a donné l'ordre de le battre. La femme de Quoc est sortie des rangs. Elle est allée vers l'officier. Elle a reçu 2 balles dans la tête et elle est morte. Quark l'a rejointe alors qu'on continuait encore à le battre. Après le départ des soldats, ceux qui sont venus au meeting de Xuan dans la clairière ont tous fait le serment de ne pas aller dans les hameaux stratégiques. Gong, Xuan, journée accablante. Les nuages se traînent à ras de terre. Je n'en sors pas. Les nuages sont remplis de Quark, de ses enfants, de sa femme. Une famille entière engloutie en 2 jours. Tout à Sing So me parle d'eux. Gong, femme. Xuan nous a proposé de nous retirer dans la jungle, de nous y implanter pour échapper au hameau stratégique. Plus de la moitié du village a refusé. Xuan, ils ne veulent pas se séparer des forêts où poussent les arbres rituels dont ils se servent pour fabriquer des cercueils. Je leur dis que les soldats les emmèneront quand même. Ils répondent, on verra bien. Femme, j'ai pris à part Xuan pour lui dire, Ngo est condamné. Xuan, vous avez des preuves? Femme, il est descendu à l'État sans nous consulter. Xuan, ce n'est pas une preuve. De plus, il est embarqué sur le même sampan que vous. Femme, non, ce n'est pas le même. Xuan, je plaide le doute encore. Une lueur ironique s'allume dans les yeux de femme. Je m'arrête aussitôt. Il pense que je suis sous le charme de la Française. Femme, Ngo a été massacré. Au coupe-coupe, la Française a été protégée par moi. Elle a vécu l'épreuve avec la plus grande dignité. Et le problème demeure. Avec ce qui s'est passé, elle ne peut plus rester au village. Si elle part, elle nous amènera fatalement les responsables des soldats. Que faire? Gong, Ariane, peut-on croire que la vie a un sens étranger à ce que les hommes peuvent rêver en elle? Peut-on croire que Xuan va sauver la Française et que tous deux finiront entrelacés dans les motifs de tissage des tribus comme symbole des années où la fureur et la fraternité brandissaient les mêmes armes? Gong, femme, nous voilà enchaînés aux objets visibles et tout ce qui pourrait faire la merveille du jour n'est qu'un appel à continuer le massacre. Gong, Xuan, il ne peut y avoir d'autre problème personnel pour moi que celui d'un village qui veut se défendre. Je distribuerai les armes que les enfants de Quark ont récupérées. Gong, Jean, le père. Ariane, toi qui crois vivre à Sun Tzu, aurais-tu pu faire comme la femme de Quark? Ariane, peut-être la Française c'est elle qu'elle ne pourra jamais le faire. Donner l'illusion de réaliser quelque chose jusqu'à ce qu'elle puisse le croire, elle aussi. Ariane, où aller? Les 3 Vietnamiens. Là où le crime a été consommé. Gong, Xuan. 5 buffles éventrés, 1 porc crabouillé et 2 éléphants qui n'ont pu prendre la fuite sont cramés, eux aussi. Le feu vient du grand amas de Paddy, dont la base est déjà en cendres. Presque nu, un bras ensanglanté, la barbe brûlée, femme court dans tous les sens, essayant de sauver quelque chose. Il n'y a plus rien à sauver. Les paillotes n'existent plus. Tout est calciné. En quelques minutes, les arbres, les clôtures, les provisions ont été anéantis. Là où était Sung So, il n'y a plus que femmes qui sautent en hurlant sur les cendres brûlantes. Des cadavres à demi consumés jalonnent le ruisseau. Les soldats les ont tournés et retournés. L'un d'eux s'est fait photographier avec complaisance. Une grande feuille de bananier recouvre un corps de jeune fille. C'est la Française. Un soldat lui a coupé les oreilles pour lui prendre les grandes boucles d'or qu'elle a dû mettre au dernier moment, à la manière des femmes des hauts plateaux. Au milieu du désastre brillent les carcasses des containers à napalm. Gong, femme. La nuit tombée, Xuan est venu. Il a appuyé sa main sur mon épaule et s'est assis à côté de moi. Il sentait la poudre. Je me souviens de lui avoir dit, même avec le soleil au-dessus de nos têtes, les yeux ne pourront pas mesurer l'étendue du mal. Puis, le clan devrait continuer, mais je suis trop petit et trop vieux pour le contenir tout. Je lui ai demandé s'il avait encore des fusils. Il a fait un signe de tête et n'a pas retenu, comme si nous avions craint de le déranger, nous avons parcouru le désastre. Devant la feuille de bananier qui recouvrait la femme de Ngo, elle s'est arrêtée. Xuan, ce n'est plus le village qu'il faut continuer, c'est le monde entier qu'il faut construire. Femme, peut-être pensait-il avoir passé 3 ans dans un trou pour rien, peut-être pensait-il le contraire. Je lui ai dit, je connais un village de ma race de l'autre côté des montagnes rouges. Ils ont besoin de toi, mais cette fois, tu ne seras plus seul à faire le trou. Nous serons 2. Ariane se désigne. 1 + 1 = 3. Jean. 1 + 1 = 2. Il arrive encore très souvent que 1 + 1 = 2. Ariane. 1 + 1 = 3. Et plus encore, le lycée tout entier fait partie des hauts plateaux. Jean. Le lycée. Ce n'est pas le clan qu'il faut continuer, c'est le monde entier qu'il faut construire. Combien de générations ont-elles prononcé ces mots pour ensuite naufrager corps et biens dans le silence de l'histoire? Ariane, c'est cette histoire que nous voulons tuer. L'autre a déjà commencé dans le Kwangal, dans Saïgon, et presque dans le village de Sungso. Jean, l'avenir le dira. Ariel, l'avenir, c'est nous. Le réveil sonne, mettant enfin au règne des images de la nuit. Les trois Vietnamiens sourient. Femme, excusez-nous. Xuan, une nouvelle journée commence.
Et cette langue, une fois de plus, entre, disons, à ces lettres de noblesse, disons, à travers tout ce qui a été écrit et pensé depuis les millénaires. Nous sommes johannistes et nous retenons de tout cela comme identité de ce langage que la première phrase de l'évangile de Saint Jean, au commencement, était le Verbe et le Verbe était Dieu. Et nous invitons tous ces repris de justice, nous invitons toutes ces psychiatrisés, nous invitons tous ces enfants d'immigrés, ces transplantés, ces déshérités de la parole et du travail à l'intérieur de la cité, nous les invitons tous à être Dieu.
Vincent, nous avons lui aussi a choisi d'être Dieu en 1991 avec Gatti. Nous lis ce soir l'introduction des empereurs aux ombres trouées qui fut le fruit de cette rencontre.
Respect. Je suis un électron parmi tous les autres en fait qui sont restés à Avignon, qui sont à Strasbourg, qui sont à Paris, que j'ai vu Sarah aussi. Je suis un de ces vecteurs de cette aventure-là. J'ai un immense plaisir et respect à lire un bout d'extrait. Effectivement, ça a commencé, enfin, moi, la rencontre en 91, ça a été la réunion de tous ces électrons et Dante nous disant au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. Voulez-vous devenir Dieu avec moi dans cette aventure? J'ai dit, il est fou, non? Et mon ami Youssef à côté qui dit non, il est poète. Comment le néo-groupe de l'étoile est devenu un jour le Shabbat? Les 16. 10 000 juifs attendent d'être exécutés avant l'adieu du soleil, mais les bulldozers pour creuser les fosses ne fonctionnent plus. Ils ont trop donné d'eux-mêmes. Eux, les 16 de ce soir, remontent la file des murs sans se séparer ni se défaire, malgré les coups et les colibés des deux soldats qui les encadrent. Ouvre-nous les fenêtres sur la constellation de Sirius, leur a crié l'un d'eux. Et maintenant, un énorme hématome détient l'un des 16 regards, mais sous la barbe, un sourire corrige. Dans les fosses, un chaos d'au moins 3 continents de dispersion et d'espérance dévastée à même la terre humide. Il a plu la nuit dernière. Les reflets des flaques et les projets anéantis semblent se référer au même geste, encore suspendu. Face aux charniers, formés pour la solution finale, les Einsatzgruppen du groupe d'armée Nord OKW, ils sont commandés devant la fosse par un pasteur, car il y a des ombrelles déchirées à la tête de ceux dont l'extermination est une raison d'être. Leurs armes les traînent d'un coin à l'autre du terrain, mais ils n'existent pas. Ainsi en ont décidé les 16 de ce soir. Les coups de crosse ont dévasté deux visages encore, mais les deux visages sourient. Maître du monde, tu ne nous as rien proposé que nous n'ayons accepté. Au bord de la fosse, les fantômes armés leur remettent des pics, des pelles et des pioches. Les bulldozers étant silencieux, ils vont agrandir le signe. Les 16 ont appris en cours de formation de l'étoile que le signe et le tombeau ont le même nom. Et ils agrandissent le signe jusqu'à ce qu'il puisse contenir tous les 100 noms de la Terre. Sait-on sous ce ciel de Lituanie qu'à partir de demain,
ce sont les morts qui éclaireront la terre, et que sur la partie de la fosse déjà recouverte circule l'énormité rayonnante d'un soleil à venir. Les 16 creusent. Dans le ciel passent les symboles qui diront un jour, à leur façon, qu'ils étaient parmi les vivants de ce monde. La chèvre, le poisson, la vache muette, l'horloge qui marque la fuite du temps et dont le balancier va d'un prophète à sa prophétie. Soudain, presque en même temps, regardez des bonds qu'ils font. C'est une compétition qu'ils préparent. Peut-être veulent-ils toucher le ciel avec leurs mains pour bien s'assurer de l'endroit où ils vont aller. Ils s'envolent, ils s'envolent. En même temps, ils sont 16 à chanter, à sauter, à danser. Ils chantent Dieu et ils sautent de plus en plus haut. Et le pasteur chrétien qui s'est accommodé jusque-là de son inexistence autoritaire secoue la tête incrédule. Le terrain de football devient la forêt ardente et le feu que nul ne voit monte vers le ciel. Un chariot rustique roule, s'enfonce dans les nuages. Peut-être fait-il partie de ce qui n'est plus et pourtant plus réel que ce qui est. 17, 18, 20 ans multipliés par 16 ne font pas 365 ans de l'histoire du monde. Quelques instants à peine. Mais porteurs de cette éternité de sable et de désert, fondateurs de la loi. Les 16 de l'étoile sautent de plus en plus haut, et plus haut encore. Une révolte de fosses communes sur laquelle les armes tirent de tous leurs fantômes. Il n'y a plus sur le stade, morts ou encore vivants, ou déjà au fond de la fosse, que des visages illuminés, partant de grandeur d'un peuple, et du Dieu qui a pacte lié avec lui. Le pasteur en uniforme d'extermination, toute retenue perdue, crie, et crie encore, ce sont des anges. Ainsi, il n'y a plus bourreaux ni victimes, il n'y a plus que des anges, des hommes qui les regardent devenir anges, et une danse d'hommes qui se regardent devenir Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Je tiens à dire ça parce que ça me porte, en fait, depuis cette rencontre-là, comme dirait un autre, appris des nouveaux mots, j'ai appris à essayer d'écrire des choses, et il y a une chose qui me porte énormément, c'est d'être rentré dans cette salle de répétition où on était, et placardé comme ici, sur tous les murs de la salle, quel que soit le sens, ne jamais le céder à la psychologie, mais trouver en lui la merveille. Les échelles qui font notre vie et le souffle qui passe au travers créent notre démesure. Seule dimension habitable, la vigilance. Merci.
Nous avons mis un espace dans le cadre de Théâtre Ouvert, une pièce, Le cheval qui se suicide par le feu. C'était la réponse puissante à une tragédie, même si elle n'a paru que sous forme de faits divers, et qui m'avait laissé sans voix et sans parole. Au moment où nous essayons de faire un film avec l'histoire des Katangais de la Sorbonne, l'un d'eux avait laissé au tableau de service un mot « Je vais rejoindre le combat du cheval de Macnaud et il s'était suicidé par le feu sur un hippodrome. »
Un extrait du « Cheval qui se suicide par le feu » par Michel Séonnet, compagnon écrivain de Gatti. On dit de lui que ce pourrait bien être un des crachats de l'histoire. Il a participé notamment à l'écriture des films « L'interrogatoire » d'Armand Gatti par ses trois chats et de « Un siècle d'écrivains » réalisé par Stéphane Gatti et dont il tirait une partie des illustrations sonores de la soirée.
Tout à l'heure, Luc disait que Gatti avait dit à son frère « Arrête de faire le comédien ». C'est ce que m'a dit Gatti au tout début où je l'ai rencontré. Il m'a dit « Arrête de jouer, écris ». Je l'ai suivi et j'en suis heureux. Ce soir, je fais une petite incartade et je me demande si j'ai vraiment raison, vu ceux qui m'ont précédé. Mais bon, j'ai quelques bonnes raisons de le faire quand même. La première, c'est que dans tout ce qui a été dit, il y a une phrase de Gatti qui m'a beaucoup marqué, qu'il a prononcée à propos du travail qu'il avait fait chez Hurstel, à Montbéliard, qui était ce moment où l'écriture devient fraternité. Et c'est quelque chose qui me marque fort. Et cette expérience du cheval qui se suicide par le feu, pour moi, renvoie à une autre histoire qui était celle d'une tribu fraternelle. Tout à l'heure, à l'enquête du ministre, il y avait liberté, égalité, fraternité. Il en fait ce qu'il veut. Mais nous savons ce que Gatti nous a permis d'en faire. Et si ça a un côté-là un peu solennel, ce que je dis, il ne faut pas oublier, mais ça... Si j'avais su que Sapard et Tyrion faisaient un numéro pareil avant, je me serais abstenu. C'est que toute cette bagarre, comme ça, elle se fait aussi toujours dans une fête, souvent, dans le chant. Et il y a beaucoup de chants dans les textes Gatti que l'on a pu rencontrer. Alors, pour un peu rappeler la situation, nous sommes à Avignon. Et ça aussi, c'est important. Parce que la cause de ma rencontre, il n'y a pas de cause. Avec Gatti, c'est Lucien Atoun, puisque un jour j'ai vu ce monsieur en train de lire Rosa Collective à Avignon. C'était au pénitent, c'était parce que une des premières années où nous
la
sommes
première,
ici.
La première. Les pénitents étaient blancs.
Voilà. Nous sommes ici accueillis par Lucien et à Avignon pour le cheval. C'était encore lui qui. Rassembler la grande famille. Donc c'était aussi une manière de nous saluer. Et il s'agissait donc de partir vers la terre promise. Et il y avait beaucoup de chevaux, toutes sortes de chevaux. Tous les noms du cheval étaient convoqués. Chevalet, cheval de Troie, cheval de Frise. Et puis c'était vraiment un travail en train de se faire, puisque alterner des séquences de théâtre, jouer, et puis des débats, des discussions, Marc était là, et puis on alternait donc tout ça, et dans la partie théâtrale, il y avait des chants que l'on chantait tous ensemble. Alors ça avait des fois un côté un peu étrange, mais on chantait tous ensemble, et c'est à cet ensemble que je voudrais vous convier, même si bien sûr, je ne chante pas comme Françoise. Alors, il s'agit donc de partir vers la terre promise avec ses chevaux. Je veux juste vous signaler qu'il s'agit de différentes... Le sujet, quand même, est important, c'est la politique. Hein, partir vers la terre promise. Et différents modèles, différents remèdes sont proposés pour le politique. Et chaque fois, il est répondu « Remède de cheval ». Alors, je compte sur vous, hein, quand je vous dis on va essayer. Vous dire, oui, petite anecdote encore. Il est question de Sacco et Vanzetti. Et il se trouve que de manière étrange, mais ça c'est un étrange que Gatti convoque souvent, on a appris pendant ce travail qu'enfin le gouvernement des États-Unis d'Amérique avait reconnu que peut-être il n'était pas coupable. Hein? Et donc je me souviens que tous ensemble, on avait chanté, on n'avait que ça sous la main à ce moment-là, la chanson que chantait Joan Baez à l'époque, Yes to You, on avait tous chanté ensemble, et bon. Et donc il va être question de ça. Alors, il y a des coups que je ne chante pas, j'ai oublié la musique. Nous voulions qu'au départ, la chanson soit les paroles et les sels de Bartolo Vanzetti. Dans les prisons de la mort, à la prison de Charleston, Massachusetts, un toit pour chaque famille, du pain, bouche à bouche, de l'instruction pour chaque cœur, de la lumière pour chaque intelligence. Et la chanson fut, nous l'avons chantée, et lorsqu'elle nous est revenue, nous n'avons compris ni ce qu'elle voulait dire, ni ce que nous avions chanté. Nous nous étions trompés de siècle, nous étions trompés de parole, nous étions trompés de personne. Nous avons dit, nous sommes morts, mais alors pourquoi étant morts, nous continuons à marcher? Comme si marcher était le but à atteindre. Nous avons planté notre tente dans la révolution, comme dans un campement de la Croix-Rouge. Au nom de quoi? La radicalité, un certificat de bonne conduite. Le dieu, inventeur de Saint Rita de la Caisse, sortait encore vainqueur. Nous avons dit, nous sommes morts, amis ou ennemis, c'était la même route, les mêmes arbres qu'ils abattaient pour faire du feu. Nous voulions au départ que la chanson soit. En apprenant les paroles, nous avons perdu le sens des mots. Au bord de la route, le gauchisme, maigre, s'engraissait à régime forcé du mouvement des masses. Nous nous sommes dit, même la marge, nous l'avons quittée. Faut-il rendre le possible possible? Le possible n'a pas de théorie. Le définir, c'est le mettre en prison. L'utopie est soumise à la question. Et la parole à l'interrogatoire. En état de manque ou d'overdose, le politique et ses mots à ressort de matelas nous conduit toujours au même hôpital psychiatrique. Vieille, mais éprouvée seringue pour s'injecter quelques centimètres cubes de communisme. Remède de cheval. Alors, vieille, mais éprouvée seringue pour s'injecter quelques centimètres cubes de démocratie à l'huile de goudron.
Remède de cheval.
Mita au médical pour aspirer fortement à l'institution.
Remède de cheval.
Pipa au médical pour aspirer pleinement à la subversion.
Remède de cheval.
Reniflette contrôlée pour tendre à la théorie du foyer unique.
Remède de cheval.
Reniflette contrôlée pour multiplier les foyers.
Remède de cheval.
Cigarette à deux bouts, spontanéiste et organisationnelle.
Remède de cheval.
Nos maisons de repos mettent à la fenêtre des camisoles de force comme des drapeaux. Et nous, les rois du carnaval, papier mâché et toile peinte, nous continuons à avancer à travers la sarabande des fétiches, des factions paralysées, des stress, des hommes d'affaires et de loi, des gadgets et des quiz, des signifiants, des signifiés, des gendarmes et de lettres, des marionnettes politisées, des patrons, des tueurs de choc. Des libres développements à long terme, des forces productives, des idéologies, des pontologies, des tautologies, des promeneurs en bateau. Nous continuons à avancer, extorquer, commander, mis, remis, contrôler, escroquer, matraquer, aliéner. Nous continuons à marcher, comme si marcher était le but à atteindre. Pourquoi quoi?
Ça a été à l'intérieur du théâtre le mot, l'avènement du mot, l'importance du mot, hein, lorsque le mot est plus fort que la mort, hein, est plus fort que toutes les formes qui peuvent s'abattre sur un homme et qui d'une façon ou d'une autre cherche à le détruire.
Le mot, Jean-Pierre Wurtz, fidèle de Getty, a choisi un extrait de La parole errante qui en parle justement du mot.
Bon anniversaire. Je ne vais pas chanter. En fait, rencontre, c'était vraiment avec Getty autour du théâtre, la deuxième édition du Camp de Tannenberg, de la Cigogne, que Jacques Lang a évoqué tout à l'heure. Eh bien, nous étions dans cette aventure-là à Nancy avec Jean Hurstel, où est-il là-bas, sur la mise en scène, et moi-même. J'ai longuement parlé de cette, évoqué cette expérience tout à fait importante lors d'un récent, récente rencontre, un récent colloque à Besançon, organisé vaillamment par Lucie Garbagnati, qui est là aussi. C'est un grand moment d'émotion, et bon, les moments d'émotion, c'est très bien une fois, il ne faut pas les recommencer, donc je me suis dit, je vais me rattraper à un texte, puisé dans cette mine inépuisable qu'est la parole errante. Alors c'est tout à fait fortuit que cela tombe le même jour que la visite du président chinois. En fait, il sera question d'un des pères de Gatti, de Mao Tse-tung. Tous les mots de la création devraient savoir qu'ils ont sur cette page un droit d'asile illimité. Un présent énorme, dit le matricule signifié. J'ai dû remonter jusqu'à Flaubert pour lui trouver un qualificatif. Plus vaste encore que le désert de Gobi que je venais de traverser. Un présent, en réponse à une de mes questions, que Chuen Lai, ancien ouvrier chez Renault, ancien des brigades internationales et nouveau Premier ministre, venait de traduire à Mao. Le berger des mots demande « L'homme nouveau, c'est quoi ?» Et Mao Tse avait arraché une feuille de son grand carnet et me l'avait tendue. Wang Chenxi, le père de mon filleul, mon traducteur et l'interprète du comité central, avait traduit. « Mets ta signature sur cette feuille de papier et l'homme nouveau sera ce que tu en feras. » Qui ? Moi ? Oui, ils ont dit le berger des mots. Il continue. Je tenais la feuille au bout de mes doigts tremblants comme si je venais de recevoir un passeport pour l'histoire de la littérature. Le berger des mots, c'était moi. Me le disait l'histoire de la Chine en train de se faire dans l'hôtel des oiseaux qui sifflent à quelques pas et non sans quelque intention, du temple des papiers brûlés. Vous serez à la table des idéogrammes, avait dit Chou à l'entrée. Je vous rejoindrai au moment des toasts. Et nous nous sommes retrouvés au milieu des 700 tables dressées pour le jubilé de Mei l'enfant. Au centre de la table, Mei lui-même, entouré de Mao Tse et de Chou, leur faisait face, Wang, moi-même, et surtout l'éclatante Cai Wei de l'Opéra de Pékin. À 18 ans, elle devait reprendre officiellement le rôle de la jeune fille dans le rêve du papillon que Mei, à 81 ans, venait de jouer pour la dernière fois. Mei l'enfant dit « Cette façon de battre des ailes sur les mots et de glisser d'un geste à l'autre, c'est toujours ce que j'ai demandé à la femme. » Mao Tse, politisé. Lors de l'occupation japonaise, Mei l'enfant n'a eu qu'une chose à faire pour entrer dans la résistance. Il s'est laissé pousser la moustache. Puis Chou, qui vient de donner à chacun des invités des 700 tables l'impression de n'être là que pour lui, vient récidiver à la nôtre. Il porte un toast général à Mei l'enfant. Il est le théâtre lorsqu'il entre en calligraphie. Lui serrer la main, c'est devenir un signe chinois à au moins trois clés. 222, 222, 22, toujours. Mei porte son toast aux deux racines de ginseng qui l'entourent, Mao et Chu. Je dis alors, une marque de ginseng a été lancée en France. Rue Sarrette, elle arbore pour sa publicité le sourire du premier ministre chinois. Le slogan le même depuis 70 ans. Chou répond, transposer Mei l'enfant en France, c'est plus difficile, avec tous les visages qu'il a eus. Il enchaîne. Nous sommes nombreux ce soir. Mao Tse vient de parler. Il sourit. Perplexité générale marquée par le sourire qui s'empare de la table. Alors, croyant faire une subtile allusion au rêve du papillon que Mei l'enfant interprétait pour sa dernière apparition sur scène, je dis « Peut-être pas assez, il manque Chun Tse. » « Et pourquoi ?» demande Wang.
pour qu'ils nous répartissent entre réalité et illusion. Wang traduit, et son sourire s'élargit. Il sera difficile à Chuang Tzu de se déplacer. Le taoïsme recommande le non-agir. Tous les sourires de la table rattrapent celui de Wang, même celui de Mao Tse. Des tables voisines, on voit la nôtre sourire. Tous les commensaux font silence et sourient à leur tour. Sept tables, avec sept invités chacune, se rallient à nous. Le silence est contagieux, le sourire aussi. Je demande à Wang, que se passe-t-il? Il est à la limite de son sourire. Quelques gouttes de sueur apparaissent aux tempes. Comment réagir lorsqu'on est à la table des idéogrammes? Faire quelque chose? Mais quoi? Sourire moi aussi? Ce serait risquer d'arrêter la vie à Pékin pour le reste de la nuit. Le sourire chinois est aussi insondable que les dessins de Pankou qui créa la terre et les hommes. L'univers entier peut s'y engouffrer sans qu'on sache jamais à quelle fin. Alors je dis, c'est un Chuang Tzu bien fragile au regard des idéogrammes qui sont à cette table, mais il vient de la forêt de la Berbérolle où était mon maquis pendant la lutte contre le fascisme. Alors, mais l'enfant, si en plus ce Chuang Tzu a été rectifié par la résistance, j'allais dire comme moi, sa place est dans le jubilé de mes enfants. Mao Tse mâchonne un piment. Quelques sourires des plus avertis arrêtent d'être des sourires. Et Mao dit, j'ai toujours été d'accord avec le camarade Meilenfang lorsqu'il s'agit de combattre le sectarisme. Le sectarisme conduit au comique. Meilenfang enchaîne. Et sur scène comme en dehors, il n'a jamais eu ma prédilection. Le comique n'est pas mon genre. Toujours affable et grand diplomate, Chu dit, pour leur équilibre, il nous faut donner une face aux idéogrammes. Et d'un seul coup, les 18 000 idéogrammes chinois possibles ont dû se mettre debout pour demander lequel d'entre nous a perdu la face. C'est tout un inconscient écrit qui s'est alors emparé des 4 900 invités de l'hôtel des oiseaux qui sifflent, l'éclatante Cai Wei comprise. Après quoi, le matricule explique. Les coutumes festives ont toujours supposé qu'à un banquet d'importance qui voulait avoir une face, chaque table est au même titre que les récipients pour porter les toasts, un ou plusieurs chanteurs. Aussi, à l'hôtel des oiseaux qui sifflent, trouve-t-on répartis autour des 700 tables les troupes 1, 2, 3 de l'opéra de Pékin. Pour redonner une face aux idéogrammes, c'est aux chanteurs de toute évidence que le Premier ministre s'est adressé. Mais qui sont ces idéogrammes? Ceux qui se sont formés autour du jubilé de Meilenfang? Ceux de l'hospitalité accordée à l'écrivain de la loi? Fatuo en français signifie « pays de la loi ». Ceux de la plus grande distance parcourus en sourire à loin? Ou ceux qui naissent et s'inspirent immanquablement du nom de Mao Tse-tung, pinceau des marais du Sud? Toujours vers 222, 222, 22 continue. Au cours de son apprentissage, dès l'âge de 5 ans, Cai Wei a appris de nombreux idéogrammes, mais aucun ne correspond à l'une des personnes présentes. Sauf peut-être Chuang Tzu et ses caractères recombinés de l'école taoïste du premier principe, d'ailleurs maintenu au programme de la troupe par Meilenfang lui-même. Appartient-il au pinceau condamné du non-agir? Ou bien peut-il agir en toutes circonstances au milieu des 700 tables? Agir, en l'occurrence, veut dire chanter. Comme en même temps le Premier ministre regarde Cai Wei en souriant, celle-ci se sent désignée. Et elle sourit, assumant ainsi le positif et le négatif de la situation, à laquelle vont progressivement adhérer ceux des trois troupes de l'Opéra de Pékin qui connaissent l'école du premier principe. Cai Wei commence. Ô mon maître, tu détruis tous les êtres du monde et pourtant tu ne fais pas œuvre de justice.
Tes bienfaits s'étendent à 1000 générations, et pourtant tu ne fais pas œuvre de bienfaisance, de bienveillance. Tu es plus âgé que la plus haute antiquité, et pourtant tu n'es pas vieux. Tu recouvres la terre et tu portes le ciel, tu tailles et sculptes toutes les formes, et pourtant tu ne fais pas œuvre d'habileté. Cai Wei s'arrête. Mao Tse sourit, et elle sourit aussi. Les uns après les autres, de table en table, les chanteurs sourient aussi. Finalement, le matricule conclut. Avant de nous quitter, tous recouverts de dorures tombées des dragons qui ont dansé au-dessus de la table centrale du jubilé, Mao Tse a dit au Fakuo tout spécialement. La suite et le reste de cette chanson, vous la trouverez dans les idéogrammes de Lu Xun. Notre peuple pense, et nous le pensons avec lui, que les dirigeants de notre révolution, ce sont eux. Mais avant de nous quitter, Mao Tse ne nous a pas dit. Les idéogrammes de Chuang Tse ont été chantés par une autre Cai Wei, Yang, ma première épouse. La nuit où il a été dépecé par le Kuomintang et dispersé dans le vent. Je me suis enfoncé les ongles dans les poignets pour ne pas crier. Au lieu de sang, il n'est sorti que de la haine. J'ai pris un parapluie et je suis parti, moi aussi, pour la forêt de la Berbérole. La route était interminable. Elle s'appelait la Longue Marche.
En 1968, Jean-Pierre Wurtz a joué dans La Cigogne, mis en scène par Jean Postel. Celui-ci sera également l'assistant de Letty et il est là ce soir. Il y a un texte qui l'a écrit pour Letty.
Il ne va pas lire du tout de texte. Il va simplement vous dire 8 paroles que vous pouvez multiplier par 10. Et je crois que ces 8 paroles constituent aussi une longue marche que nous avons accomplie ensemble. La première parole, au commencement, bien sûr, c'était le verbe théâtral. C'était aussi la deuxième existence du camp de Tattenberg que nous avons monté en 1967. Et ce fut ensuite le cadeau tout à fait étonnant et généreux de Gatti qui a écrit pour nous La Cigogne pour une troupe parfaitement inconnue qui s'appelait le Théâtre universitaire de Strasbourg. Ensuite, comme fleur de mai, comme arme militante, nous avons réalisé avec lui, il a écrit avec lui dans une ferme où il y avait plein de souris, l'interdiction de la passion du général Franco. Eh bien, ces trois événements, vous pouvez l'imaginer, autour d'une cathédrale à Strasbourg, autour des colombages, les 4 C alsaciens, autour des cigognes, autour de la cuisine alsacienne, autour des costumes traditionnels. Ce fut une belle explosion, un feu de joie, ravageur, chant d'allégresse, mise à feu d'un monde que nous croyons défunt, et nous nous sommes trompés puisqu'il nous revient en 2004. Il nous revient dans sa force destructrice, régressive et réactionnaire. Le théâtre fut la matrice et le carrefour par où soufflaient tous les vents de l'histoire, où se tissaient paroles et idées, et conflits et controverses. Et Gatti fut au centre de ses passions théâtrales, de ses luttes théâtrales, comme prolégomène de toutes les luttes politiques. Et si j'écris ces mots à l'imparfait, c'est pour mieux signifier le mouvement de désertion, de retrait, de retraite, qui a saisi le théâtre depuis, la panne du moteur imaginaire du monde que nous traversons, Et je voudrais vous dire que cette parole théâtrale reste à réinventer à nouveau. Et que peut-être Getty, dont on célèbre le 80e anniversaire, sera encore là pour l'induire. La deuxième parole, c'est non pas célébrer l'écrivain, la littérature, mais dans un deuxième mouvement, redire la force rayonnante de la parole orale de Getty. Getty en orateur, Getty en diseur, Getty en conteur de sa propre vie, de ses propres convictions. Retracer cette alchimie complexe qui se noue sur sa présence et peser ce mot de présence dans sa désinence première, présent au monde, présent aux autres, et constater ce miracle chaque fois renouvelé dans un groupe de loulous, bien que dans un groupe de journalistes, un groupe d'enseignants ou un groupe d'universitaires, un espace et un temps suspendu, et un groupe hétérogène qui brusquement prend corps et suit pas à pas le récit, la parole de Getty, dans ses moindres inflexions et modulations. Cette force invocante, cette séduction invocante, qui au-delà des mots prononcés, donne le souffle et le pouvoir d'aller au-delà des contraintes, règlements, enfermements, et le projet de Strasbourg, Kepler, le langage nécessaire, nous avons monté à l'électrique, j'ai vu ce phénomène se réaliser sur un groupe de fonctionnaires de la direction du travail et de l'emploi, d'abord interloqués, puis désemparés, puis chez certains une petite lueur dans le regard, puis un sourire, puis une émotion contenue, comme si la parole de Getty levait peu à peu les implacables barrières de la haine et de la mort. Et je crois qu'ils ont allumé cette sainte lumière, et d'ailleurs que nous avons obtenu la subvention que nous avions demandée. Troisième partie, l'homme de la parole partagée. Dans ce troisième terme, décliner la parole chaleureuse, celle qui noue et entraîne les hommes dans le partage d'une aventure artistique. Parole mouvement, à la fois sympathique au sens premier, oui, sympathique, ça veut dire souffrir avec au sens premier, et comprendre, comprehendo, ça veut dire prendre avec au sens initial, donc c'est un partage, une amitié, qui au fil des temps a dépassé la tribu initiale pour s'étendre à des gens de théâtre, aux scientifiques, aux journalistes, aux universitaires, et très peu en vérité aux gens de l'institution culturelle officielle ou théâtrale. Mouvance, mouvement, scandé par les projets successifs, mais permanence aussi de l'amitié au sens premier, ça veut dire qui vient d'amarrer, aimer. Ce soir, c'est au fond une nouvelle preuve d'amitié et d'amour que nous deux portons. Cette capacité de contamination sensible transcende les générations, les classes sociales, les origines, non pas pour assurer un pouvoir, j'imagine quel homme politique tu aurais pu être, mais pour engager collectivement une aventure de l'esprit, un sensible cheminement dont nous sommes tous revenus différents, et je crois que nous étions certainement plus beaux, comme tu dis, peut-être meilleurs, mais en tout cas différents. C'est peut-être la meilleure définition même de l'amitié, grâce à un ami, porter un autre regard sur le monde, et comme le disait Kafka, « Im Kampf zwischen die Welt und dir », c'est qu'on dit « die Welt », ça veut dire « dans le duel entre toi et le monde, assiste le monde ». Parole quatrième, l'homme de la parole exclu, là où le verbe se fait chair et la chair se fait verbe, là où règne le silence majuscule des espaces de l'exclusion. Lors du projet Kepler, le langage nécessaire, mené en 1995 avec 80 jeunes loulous de Strasbourg à la lettrerie, s'est noué ce paradoxe absolument incroyable, poser la question des sciences modernes à un public qui n'avait aucun diplôme, aucun bagage universitaire, aucune connaissance des mathématiques. Le défi a été relevé, non pas par les équations algébriques, mais par ce long cheminement de la parole du sens, par la circulation de la parole et du sens entre les chercheurs universitaires, les loulous et le poète. Éveiller la parole, mettre la parole en action théâtrale, ce n'est pas un parcours scolaire, mais un acte éducatif au sens d'éducare, conduire au dehors. C'est la démonstration scientifique que la parole partagée rend l'impossible possible et que le silence imposé par la société en ses destinées sociales, d'exclusion majuscule, peut être brisé. Parole cinquième, l'homme de la parole mise en image. Nous avions tous vu l'enclos, mais l'écran se métamorphosait dans l'espace et le temps. Nous avions repris cela dans la ville usine Peugeot à Montbéliard, ce fut en 75. Un film « Le Vôtre » décliné en « Lyon, sa cage et ses ailes », le Lyon Peugeot, sa cage, Montbéliard, ses ailes, les habitants, et les communautés immigrées, puis film d'une heure, déclinant en destin entrecroisé les habitants Peugeot. C'est comme toute une ville brusquement se mettait à parler, et qu'en rêve ou en cauchemar, et que le poète saisit ce rêve au plus près et le métamorphose en image, lui donne force, contour, contenu et conjugue des paroles juxtaposées pour construire une ville singulière, une ville imaginaire, plus réelle que la ville Peugeot-Montbéliard elle-même. Parole sixième, celle de la parole poétique, celle de la parole écrite, celle où tous les mots se réunissent pour entrer dans un texte écrit, non pas comme les moutons dans la fable comme on vient d'entendre, non pas dans la maison de l'être, comme le disait Heidegger, mais bien comme le poumon du monde, le souffle et le poumon du monde, comme le chant des griots d'Ogon. Mais le mot « chien » n'aboie-t-il que lorsque les moutons se dispersent, mais un mot n'est jamais un mot, il est toujours un vertigineux infini dont tu nous as montré la direction et l'horizon incommensurable. Parole septième, celle de la parole historique. Nous sommes tous des noms d'arbres, mais toi tu es un arbre dont l'esprit témoigne de tous les combats de ces 8 fois 10 années. Tu nous as initié à la résistance, non pas seulement à celle de la Deuxième Guerre mondiale, mais à cette capacité humaine de dire non et de faire l'homme plus grand que l'homme, plus grand que toutes les forces de domination, d'oppression et d'aliénation. Au moment du formidable mouvement de modélisation qui réduit l'homme à n'être plus qu'un consommateur, qu'un producteur, un individu privatisé et une marque déposée, au moment même du triomphe du capitalisme mondialisé, cette résistance-là est plus nécessaire que jamais, et tu es là encore une fois pour signifier que le combat est toujours à recommencer et qu'il est toujours possible de rêver d'une autre société. Ces 8 paroles conjuguées pour tracer une mémoire et surtout pour payer une dette, m'avoir appris l'importance de la parole, à moi l'Alsacien, dont la langue fut coupée à l'enfance par l'interdiction de parler sa langue, tu m'as aidé à me libérer des contraintes de cette langue imposée, à explorer une dimension nouvelle de la parole, à conjuguer les forces de vie toujours plus fortes que les forces de répétition et de résignation. Cette longue traversée qui, de l'usine Alstom, mène à la laiterie de Strasbourg et qui du camp de Tattenberg montait à la théâtre universitaire va jusqu'au langage de Kepler. Bien entendu, le compagnon ne paye jamais sa dette à son maître, mais il peut lui témoigner simplement du bonheur et de la joie qu'il a eu à partager ce cheminement de la parole. Du warst, du bist, du wirst sein. Tu as été, tu es et tu seras encore, pour toujours, celui qui a libéré la parole, celui qui nous a donné le sens de la parole. Merci à toi.
Ce soir, elle rend hommage au poète et à la mère Méditerranée, à travers un extrait de La mer au troisième jour, Evelyne Didi.
Juste avant, je vais juste dire quelque chose de un peu trivial, excuse-moi, mais voilà, de tout ce que j'ai entendu, je pense, mais je vais te dire la vérité, quand je t'ai vu la première fois à Saint-Étienne, je devais avoir peut-être 16 ans, ça fait très longtemps, plus presque plus de 35 ans, 40, je ne sais pas. Et la première chose que j'ai pensé quand je t'ai vue, puisque je n'avais pas encore ni lu ni écouté, c'est « Mais qu'il est beau !» Ça, c'est mon cadeau, parce que aussi le dire. Voilà. Et André Ville, qui est là, va m'arrêter si je suis trop longue. Parce que c'est un long poème. Je vais dire un petit peu de vous. Elles sont toutes là, les tribus du romarin et des rochers rouges. Celles du sang, celles de l'esprit, celles du combat et celles de la ressemblance. Elles sont toutes là, en gradin, en escalier, qui parcourent les siècles et qui, par-delà les apparences de camomille et de charbon béni, nouent toujours de nouvelles alliances. Elles sont là, avec au milieu leur délire, la mère Pascale. Mère qui n'a jamais existé. Méditerranée qui n'existera peut-être jamais, mais beaucoup plus qu'une existence en mètres carrés ou cubes, une nécessité promulguant en langage tout ce que l'histoire a passé sous silence. Les paroles de l'océan sont dans celles des hommes, mais elles tiennent, ma mère, d'eucalyptus, de myrte, d'aloès, de résine et de lavande, sans battements qui font les marées et la conjugaison des lunes dans le ciel, s'acharnent à lancer la plainte écho de toutes les naissances. Naître, c'est entrer dans le doute, l'inquiétude, le déséquilibre et s'inventer des cordes de soleil. Hein ? Siècle couturé, à large cicatrice et à moignon, de combien de pages d'histoire à travers toi n'ont-ils pas été l'utopie, superposant les christiques et romaines de terre sainte ou égyptienne du premier alphabet. Utopie des forces marines ouvertes et vidées. Utopie le sillon creusé, la plainte, le glas, l'introïte et la clameur. Utopie, les applaudissements d'eau, une même escalade vers un navire toujours fantôme. Je passe. Non, c'est ça. Autrefois, pour te donner existence dans le savoir de tes riverains, les temples suffisaient. Des dieux réels, comme autant de tes émissaires, les habitaient. En portaient trace les colonnades et leur façon de soutenir les plafonds. Aujourd'hui, ils sont corps et biens dans les pages de l'histoire. Perdu ta dimension de soleil, ta dimension de nuit bleue, tombant goutte à goutte des années-lumière, mais toujours passant par la triangulation de l'étoile, mort, naissance, résurrection. Ah non, naissance, mort, résurrection. Pardon. Mère du troisième jour, mère Pascale. Ta revendication, ta blessure. Le point cardinal qui a échappé aux quatre autres, celui du milieu. Découvrir le centre dont je suis l'univers.
2000 cyprès sur tes rives parlent ainsi. Même dans les débris des délires des tribus à travers les saisons, les temps de guerre et les temps de paix, tu ne peux passer à l'histoire qu'autour du cinquième point cardinal. Alors, si ce cinquième point cardinal existe pour nous, c'est sans canot ni rame, sans vêtements, sans nourriture, non disparu, prisonnier entre deux courants. Il fait partie de la lente folie des vents chauds, à la recherche d'un signe lorsque le soleil ne parle plus qu'en termes d'exécution capitale. Mer tragique. Seul un poisson, pour nous, pourra le dire. La mer avance sur roues multiples et remultipliées, touchant du doigt une rive après l'autre, au milieu, par la décision de qui ? La baleine. Possible cinquième point cardinal par la décision de qui ? D'une rive à l'autre, il sera pensé une énorme bouteille à la mer. La baleine tanguera sur les crêtes noires, sur l'absence soudain inexplicable de lumière. La tragédie est née sur les bords de la mer Pascale. Femme à moitié rongée, mâchée, mais encore phosphorescente, sur les plages, l'arbre aux gousses coloriées d'un carnat cramoisi sera présent. Et j'y passe parce que je ne sais pas le dire ça. Une vague que trois éternités africaines, asiates, blanches te disputent. Dérision dont la mouette n'est qu'un moment de l'écriture. Le toucher de la baleine, peut-être moins d'huile d'amande, est au fond de la mer Pascale. Il s'invente les trésors pirates, les perles noires, les algues enrichissantes, les coquillages contournés, et les 2000 cyprès les traduisent. Débris de saison, monstres épiques, mots hyperboliques, tous voulant assumer le rôle du danseur. Mais dans quel espace ? Le soleil ne se couche jamais, c'est la baleine qui lui tourne le dos. Les tentacules du soleil l'étranglent sur le divan des vagues, avec une odeur d'Afrique dans les reins et une traînée de luxure faite de nuit lointaine, comme des astres, au-dessus de la mer. La nudité est antérieure au corps et le corps, quelquefois, s'en souvient. Encore. Ton cinquième point cardinal doit être cette baleine, revivifiée printemps, diastole et systole, sur la surface à inventer de tes os. Tu as toujours séparé les monstres marins en deux, le oui et le non. Mais les mots avec lesquels ils devraient se dire sont cette herbe malingre qui vient croître trop vite, dépouiller des prestiges du soleil et de la pluie. Le chant de la baleine solitaire multiplie les baleines. Chaque baleine, blanche, bleue ou grise, est un chant. Chaque vague est le recommencement de la mer phosphorescente. Seul pour sauter de l'un à l'autre, le poisson volant, chant multiplicateur. Fruit jetant sa pulpe et se retrouvant noyau, mais dont le rayon, la falaise, les ammonites seront désormais la terre nourricière. Ce n'est pas avec les siècles qui s'éboulent que s'écrit la mer, mais navigation après navigation, dit la reine blanche. Voilà.
Mais il a tenu lui aussi à être là quand même, Pierre Santini.
Mon tante, mon fils, mon camarade. Notre vendredi et lundi, ils nous électrocuteront, juste après-midi. Je serai avec toi comme je le suis maintenant, avec tout mon amour et mon cœur ouvert. Je suis pour la vie, Dante. Tu dois l'être aussi. Ne pleure pas. Retrouvez la joie, tous les trois. Mais souviens-toi toujours que tu dois aider les faibles qui appellent au secours, les victimes, les persécutés. Ce sont tes camarades, ceux qui luttent et qui tombent comme ton père et Bartolo. L'amour, le véritable, tu le trouveras dans ce combat pour les humbles et tu seras aimé. Du fond de la maison des morts, je crie vers toi, Dante, mon Dante, à cause des voix d'enfants qui me parviennent du terrain de jeu. La vie danse, saute, s'amuse, chante à quelques pas des murs où est enfermée la secrète agonie de trois âmes enterrées. Et je veux te voir. Et je veux voir Inès. Et je vous console en pensant qu'il vaut mieux pour vous ne pas voir l'image attristante de trois hommes qui attendent d'être électrocutés. Car je ne sais pas quel effet cela aurait sur vous, à votre âge. Mais d'un autre côté, si tu n'étais pas si sensible, le souvenir te serait utile pour crier au monde cette persécution et cette mort. Ils peuvent anéantir nos corps, mais pas nos idées. Et la jeunesse qui nous suit continuera à les défendre. Aime, Dante. Sois près de ta mère et de ceux qui souffrent en ces jours tristes. N'oublie pas de m'aimer un peu. Je t'aime tant. Dante. C'est ton père qui t'appelle. Dante. Dante. C'est ton camarade Nicolas. Armand. Dante. Quel merveilleux souvenir. Ce chant public devant de chez électriques. Merci de m'avoir donné l'occasion de faire ce voyage à travers le temps et l'espace. De faire... C'est celle-mère, mot dont tu es peut-être un des rares encore à comprendre le sens. Mais c'est toi qui l'avais inventé. Alors tous mes voeux, mon cher Armand, mon cher Dante, pour tes 80 ans, et puis encore autant derrière pour toi, et beaucoup de talent et de génie, comme tu es sûr d'avoir tout au cours de ta vie, et comme tu l'auras sûrement encore. Nous t'aimons beaucoup, je t'aime, amicalement, Pierre.
Et lire le texte qui va suivre, extrait des personnages de théâtre meurent dans la rue.
Compagne, compagnon de Berlin, comme si nous étions à Kronstadt, nous sommes morts, condamnés à mourir jusqu'à Caen, dans une ville que nous ne connaissons pas, une ville en insurrection, certes, dont nous avons ramené quelques bris par-ci, par-là, avec à la main un fusil sur la gâchette duquel nous n'avons jamais appuyé, avec sur nos livres des mots dont nous n'avons pas le savoir, avec des hommes dont nous n'avons les visages que par recoupement, nous sommes morts. Condamnés à mourir jusqu'à Caen, dans une ville qui, il y a 50 ans, s'appelait... Compagne, compagnon, si nous voyons notre combat dans l'éclairage d'une vérité en exil, nous sommes condamnés à la stérilité et à force de stérilité élus, défenestrés, proclamés, réhabilités à la dérision. Nos réalités sociales, un brouillon que chacun s'acharne à copier sur le voisin, ont besoin de mensonges pour être admises. Donc, des mots, malheureusement Dieu devient Dieu quand on le nomme pas la révolution. Un homme nouveau avec les mots de l'homme ancien, c'est une révolution qui s'écrase avant même d'avoir déplié ses ailes. Nous arpentons ce que nous croyons être le futur avec toujours le même chemin de croix, se terminant toujours avec les mêmes mots. Mon père, mon père, mon père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Là, on attend la fête, c'est le sacrifice, toujours lui qui installe ses piquets. Que cherchent nos promesses en dehors de se dévorer avec des mots venus d'autres expériences que celles de nos nécessités, remplacées par le tract des trois consonnes et des deux voyelles en mai à Paris créé. Compagne, compagnon, à Berlin, on meurt pour la Révolution, mais on ne la fait pas. Était-ce le mal vieux d'un siècle dont souffrait Georg von Herr et qu'il avait amené 10 jours avant Noël au rendez-vous de la rue aux 4 cimetières, compagne, compagnon? Qui se souvient du langage des créations et des contacts qu'il a gardés avec l'écriture du vent et de la pluie? Quels mots ont-ils conservé le rythme des oiseaux, des saisons et des poissons dans les rivières? Ces rythmes nous gouvernent et nous croyons les renverser en exterminant leurs représentants. Le langage création est devenu le langage tourmente, et de plus, il est condamné à être sans dialogue. C'est sûr que nous allons crever sous notre propre merde. Et après, compagne, compagnon, le dire n'est qu'un alignement de taudis hantés par l'infini qu'ils sont seuls à voir, parce que leurs fenêtres en papier huile sont seuls à les nommer. Ils suffoguent sous le vide qu'ils créent pour respirer. Et l'hôpital désaffecté de Kreuzberg, compagne, compagnon, la nuit des barricades, il n'y avait à Paris qu'un seul univers mis en place, où chacun, selon son humeur, venait voir. Cet univers unique, le spectacle l'ont cherché dans la rue, jusqu'à la place centrale de Kronstadt, et ne l'ont point trouvé. Notre manif l'a cherché jusqu'au mur, et ne l'a point trouvé. Votre occupation ne la trouvera pas davantage dans cet hôpital désaffecté. Il accompagne à votre insu, comme à celui des gâtis qui m'ont donné rendez-vous à la gare de la Friedrichstrasse, l'enfant de mai, fugitif. Ce « nous » cherchant dans toutes les rues du monde. Pour lui, spectacle, manif, occupation de la rue ne chercheront plus à effacer une mort, mais l'attente de la mort, les usines ne sont rien d'autre. Compagne, compagnon, nous sommes condamnés à mourir jusqu'à quand? Dans une ville qui, il y a 50 ans, s'appelait Kronstadt. Elle continue à s'appeler Kronstadt, car depuis Kronstadt fait partie de toutes les villes du monde, et nous y mourrons jour après jour, avec des complicités d'il y a 50 ans, des mots d'ordre comme des poissons sur la terre sèche, échappant aux catégories qui nous décrivent. Est-ce un combat que de s'adapter au passé et aux pseudo-événements dont ils nous persécutent et dans lesquels ils nous poisonnent? Compagne, compagnon, si nous ne trouvons pas les mots qui permettront aux choses de nous voir différemment, et si nous ne nous multiplions pas à l'intérieur de cette vision, nous sommes condamnés par nous. Si nous ne pouvons construire le Saigon mythique construit par les clandestins avec leurs paysages, leurs plantes, leurs lignes de force, leurs rendez-vous et les signes d'intelligence qui les protègent, un Saigon qui n'a rien à voir avec le Saigon officiel, celui du pouvoir, tout en étant le même Saigon, une ville plus vraie que celle dans laquelle nous sommes et dont tous les mécanismes se sont dans nos têtes à l'état de frein. Nous sommes morts, condamnés à mourir jusqu'à quand dans une ville que... Compagne, compagnon.
La seule question que vous devez vous poser à l'important. En abordant un mot, en abordant un texte, c'est de savoir, est-ce que le mot chien aboie? Et à partir de là, tout devient possible.
4 fois 20 ans. Et oui, la preuve avec la dernière pièce publiée en 2003, et dont le titre est, je vais essayer de ne pas trébucher, Le couteau des baristes gallois avec lequel Dedekind fait exister la droite en mathématiques, ce soir, fait l'hexagramme à la recherche du livre des mutations. Et c'est Claire Grignot qui va nous en lire un extrait.
Les bouts de texte que je vais vous lire sont extraits de la pièce dont le titre vient de vous être lu. Carmen est en train de finir d'écrire, je crois, elle n'est pas tout à fait finie. Ça rajoute des choses, tout ça. On l'a joué cet été à Besançon, dans le cadre du théâtre universitaire, dont Jean-Pierre Durst vous parlait tout à l'heure. Puisqu'il était présent au colloque qui débutait l'expérience, un petit colloque de 3-4 jours, et la première matinée, deux, trois ou quatre intervenants étaient vraiment très très émus. On a même pleuré, parce qu'on était beaucoup à se demander quel été on allait passer et où on allait vivre. Et en fait, on a donc joué cette pièce fin août. Voilà, donc moi, pour moi, c'est tout frais, c'est encore en maturation. Je suis très contente d'être là ce soir, pour toi, pour cet été. Et puis parce qu'actuellement, des gens qui rêvent, pensent et inventent d'autres univers, c'est rare et précieux. Tout le monde tient le beau pour le beau, c'est en cela que réside sa laide. Tout le monde tient le bien pour le bien, c'est en cela que réside son mal. Le couteau d'ébariste gallois, avec lequel Dedekind fait exister la droite en mathématiques, ce soir, près d'Hexagramme, à la recherche du livre des mutations. Quen, la terre, papillon de Chuang Tzu, déminotaire. Kien, le ciel, papillon de Chuang Tzu, de Jean Carayès. Ken, la montagne, papillon de Chuang Tzu, de Gaston Bachelard. Li, le feu, papillon de Chuang Tzu, de Kurt Gödel. Swen, le vent, papillon de Chuang Tzu, d'Albert Lautmann. 64 signes, très brisés féminins et très pleins masculins, ne peuvent prédire un temps en constante évolution et les destins qu'ils enferment. Leurs prédictions sont faites de mutations aux échelles de l'univers. Sommes-nous un oracle? Oui? Non? Non et oui en même temps, peut-être. Le oui et le non de ce soir vous installent sur de nouvelles sphères de compréhension, même si elles ne seront le plus souvent que le dialogue entre nos voix intérieures. Le Yi Qing, son livre des mutations, Lao Tzu et son buffle vous saluent. Oh, regardez, l'envol du dragon. C'est quoi? Le dragon, un idéogramme qui n'a qu'une chaise vide pour s'écrire dans le langage dramatique. Une chaise vide n'a-t-elle pas suffi à dire dans toute son étendue le chant d'amour des alphabets d'Auschwitz? Mais comment dans ce cas y être trigramme ou hexagramme sur une aire de jeu? Avec la baguette de Webern, dessinant l'homme de demain dans les quartiers, Karl-Marx-Stadt de Vienne. Déjà, les spectateurs, vous êtes qui? Des spectateurs virtuels. Mais alors, c'est quoi votre spectacle? Le dialogue impossible entre la droite, toutes les droites, et les nombres qui hantent la société spectaculaire et marchande. Ne sera-t-il point, en même temps, un spectacle impossible dans un théâtre? Ou une pièce comique, déjà jouée avant même de commencer? Ou terminée au moment même où, à la caisse, on lui donnait ses assemblages géométriques pour la voir? Rassurez-vous, Catherine Chevalet et le chat de Schrödinger seront eux aussi spectateurs virtuels. Ils apporteront la complémentarité. Et vous serez avec nous les cloches de la résurrection, comme si nos mots étaient les sacristains qui en font une envolée dans un paysage de cathédrale.
C'est possible. Il fallait inventer des personnages possibles, il fallait inventer des situations possibles, donc c'était le monde de la possibilité. Et plus du tout le monde de la cause qui engendre l'effet.
La recherche sur le langage théâtral n'a pas cessé. Le théâtre des possibles poursuit sa route en s'arrêtant au passage à Opéra avec titre long. C'est Hélène Chaplin, compagne et compagnon, qui va nous en lire à l'extrême.
traversé le langage. Alors, j'ai dit, je vais peut-être lire un morceau de l'opéra à titre long, qui est juste en amont. C'est une des grandes montagnes qui marque le passage d'un fond marin à un autre fond marin. Et puis je me suis dit que c'était... Il fallait effectivement prendre à traverser les langages. Alors, le premier s'appelle, enfin un des premiers, l'éventualité de la géométrie survivante du colloque d'Erlangen. C'est cool. Là, opéra probable, tendant à faire du rosier blanc, du charnier d'Arras, le critère de la rencontre de groupes de symétrie éventuelle, et de ces groupes, une écriture possible, où Évariste Galois et Jean Cavalier s'éclairent l'un l'autre, ressortissant d'une même étoile du matin. Interférence et ou diffraction, il faut savoir tirer l'épée. Les mots du philosophe lorsqu'il provoque des mises en écriture de l'histoire de France selon Jean Cavaillès. Au dénouement, le dénaturant langage à initial, P, T, T, en proie aux métaphores de ce tampon. L'opéra qui commence là, il y en a 13 autres exemplaires, plus les didascalies, plus la pièce que Claire vient de, enfin le texte que Claire vient de lire. Et pour moi, qui suis d'enfant de villa, c'est la zigoura de l'émerveillement. De voir à quel point une écriture que j'ai vue passer de champ public aux interférences s'est développée selon une structure et une intelligence du sens qui est restée comme une constante, sans doute une de ces symétries dont Gatti parle maintenant. Je vais être très brève, parce qu'effectivement, une zigoura, ça peut être aussi un guet. Un guet, si on met tous les textes comme ça, ça fait un guet qui traverse les langages de la science, les langages de la musique, la construction des cathédrales, les géométries. Et c'est un guet parce qu'effectivement, c'est de langage en langage qu'on les traverse. Et à chaque fois qu'on met le pied sur une garoche, c'est tous les langages qui viennent battre autour de vous. Je vais vous lire juste une fin. Les associatifs font d'un champ une occupation d'espace. Champ de la demande et de la réponse. Soleil, qui es-tu? Vous? Nous? Lequel? Soleil, qui es-tu? Et la question posée à la tempête par Para et Jacquier, les naturalistes, Badeuil, le peintre, Charcot, le médecin, Laronde, le géographe, Burt, le marin, Delvaux, le physicien, au moment où le pourquoi pas s'enfonçait dans les flots. Le mât du pourquoi pas dans la tempête ne préfigurait-il pas le poteau du Pentagone dans la tempête? Symétrie. Rita Lamouette. La réponse, au-delà de la demande, c'est Rita Lamouette et son chant d'oiseau au-dessus des deux tempêtes. Les associatifs terminent leur chant. Soleil, qui es-tu? Vous, nous, lequel? Groupe des oscillations. Nous savons ce que nous voulons ne pas être. Quant à savoir qui nous sommes, seuls peut-être, la lumière du soleil peut répondre. Et qu'est-ce que vous voulez ne pas être? Groupe des mathématiciens tordus. Nous ne sommes pas ces figurants de théâtre qui, la nuit de la chute du mur de Berlin, ont abandonné en pleine représentation de l'opéra du Capsou et sont allés avec leur habit de scène sur les ruines du mur pour en créer un autre. Groupe des axiomatiques, tout résistant, et la symétrie en train de s'inventer un hôtel médique terre haute. Et donc, le recommencement de la réputation d'un récit de fondation tel celui de Moïse dans le désert. Son langage commence là. L'histoire de France, selon les réseaux de résistance, l'histoire des réseaux de résistance selon les cathédrales, groupe des commutatifs. la même pour les mathématiciens philosophes. Elle a commencé avec le chien Dick et la traversée des Landes. Et en même temps, avec l'église, le Tréhaut-Tintin et les chevaliers du Graal. Elle a continué avec le chien Ascatar, parcourant les transfigurations de la Divine Comédie, et avec le chef d'atelier communiste du camp de Saint-Paul-des-Jeux, avec Spinoza, et peut-être Platon, face à l'église Saint-Germain-des-Prés, avec le chant de nuit du détenu de la santé et les suppliciés d'Arras. Le 2 x 50 000 livres brûlés tient à participer lui aussi. 2 x 50 000 livres brûlés. Histoire qui se continue ce soir par les fleurs qui poussent sur les charniers de la résistance à la recherche de symétrie. Que dans cette traversée des langages, le groupe des hypothèses de travail soit devenu celui de la baguette du chef d'orchestre, nous ne pouvons que l'admettre. Ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'il est abandonné. Pour laisser place à qui? Groupe des hypothétiques, au sourire d'un ange solitaire. Et le brandir avec l'épée de Descartes, groupe des hypothétiques. 14 rendez-vous du réseau corps ont eu lieu, sous le portail gauche de la cathédrale de Reims, où se trouve l'ange qui sourit, groupe des commutatifs. Nous sommes ce soir le 15e. Silence. Puis, les spectateurs virtuels, comprenant que c'est la fin, viennent remercier. Groupe des associatifs, mirage gravitationnel, densité critique, stabilité des orbites planétaires, nous voici tous, nous, spectateurs, historiens du cosmos, groupe des hypothétiques, pour combien de temps? La possibilité pour Heisenberg d'être présent. Le temps d'une rose blanche pour fleurir.
Avant que les 17 comédiens de la troupe qui joue actuellement La Parole errante de la Maison des Métallos deviennent sur scène pour clôturer cette soirée, si vous voulez bien nous faire un petit cadeau d'un de vos textes, l'adieu à Nicole Gambers.
Je n'ai été averti de la manifestation que quelques jours à peine et dans le plus grand secret, hein, Jean-Jacques Ocard est venu me dire, tu sais que Lucien prépare quelque chose, hein, je crois, mais quelque chose d'amical comme ça, de... Ah, dis, ah bon, hein, comme j'aime beaucoup Lucien et sa femme, et donc j'ai dit, d'accord, hein, on va faire... Et puis il y a eu un coup de téléphone de Lang, qui me dit « Je suis très heureux et très fier. » Alors, bon, évidemment, société spectaculaire et marchande, être très fier d'aller faire un repas, bon, ça se fait depuis très 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 longtemps. Quoi. Et puis, tout s'est développé. Et tout à l'heure, on dit « Il faut que tu dises un poème. » Et alors, il y a eu une discussion... Alors, il y a un poème humoristique où ce sont les gros qui font l'histoire, etc. Enfin, bon, et puis, Marc dit non, un autre poème. Parce que c'est le 26 janvier, et pour toi, le 26 janvier est une date capitale. Alors, évidemment, ce n'est pas le fait que je sois né le 26 janvier que... Qui fait que c'est une date capitale, enfin, pas ça. C'est que ce 26 janvier, il s'est passé, dans mes rapports avec la poésie, un drame bon, qui a eu, disons, qui se continue encore aujourd'hui, parce que c'est ce drame-là qui va faire ma prochaine pièce. Voilà. Alors, en deux mots, c'est très très simple. C'est très très simple. D'ailleurs, l'extrait fait partie du livre. C'est pour ça que Marc en avait parlé. Alors, bon, une chose toute simple. J'avais 17 ans à ce moment-là, presque. Et donc, je suis tombé amoureux. Bon, ça arrive, ça arrive. Hein? Et donc, je suis tombé amoureux. Mais sauf, ça s'est heurté tout de suite à la chose impossible. Hein? Elle était fille du bijoutier de Monte Carlo. Hein? Et moi, j'étais le fils du balayeur. Alors, le frère est arrivé tout de suite, et le frère était champion de la Côte d'Azur des quatre. Les deux spécialités, hein? 200 mètres haies et 400 mètres plats. Voilà, il y a un superbe, grand, beau, et on dit, hein? Alors, il y a eu une première rencontre, disons, au point. Bon, il faut dire qu'il était très, très fort, etc. J'ai bénéficié dans le jardin en le poussant un peu sous des barbelés, ce qui fait que, bon, etc. Mais, enfin, disons que largement, j'avais reçu une leçon. Hein? Et comment faire? Comment faire? Alors, tout ça, et puis je la voyais, alors c'était un génie, quoi. Elle avait eu le bac deuxième partie à l'âge de 13 ans, avec mention très bien. Alors, bon, quand même. Alors, tout ça crée des impossibilités infinies, quoi. Alors, j'ai décidé, hein, pour convaincre Nicole, elle s'appelait Nicole, j'ai vraiment, j'ai dit, voilà, je vais lancer un défi au destin. Je vais lire un poème à Nicole, hein, en marchant sous les flots. Alors, là, le défi a eu lieu en 26 janvier. C'est pour ça que Marc l'a ressorti. En 26 janvier, ça veut dire en même temps aussi que les eaux sont très froides. En 26 janvier. Et que marcher sur la mer, pour peu qu'on glisse, oui. Et mais je croyais mais fermement que je marcherais. Et toujours le fait qu'on croit, hein, et qu'on ait tous les mots susceptibles de convaincre ensemble, hein, la réalité suit. Alors, j'ai sans doute pris dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, et au lieu de prendre à partir de la plage d'en dessous les docks, j'ai pris d'un dock à l'autre. C'était le port de Monaco. Maintenant, il a beaucoup changé, mais même sous des apparences simples, bon, il tenait le coup, puisqu'il y a le même tapier qui venait avec son yacht, et c'est même son équipage qui m'avait... Enfin, bon. Alors, donc, la réunion a lieu, etc. Alors, le frère était là, bon, il y avait même les cousines, les... bon, et puis, il y avait les amis, il y en avait qui croyaient que, qu'avec la cousine, on changerait le monde, et j'étais là en train de... bon, les amis qui sont morts aujourd'hui. Bon. Et donc, tout le monde était là, etc. Et je suis parti du toc. Hein? Et dès que j'ai mis un pied comme ça, le poème... Mais c'était dans la gorge. Et hop. Et comme vous voyez les docks de Monaco, ça fait à peu près, par rapport à la mer, ça fait largement en hauteur. Alors, et puis comme dit, c'était très froid, alors ça s'est glacé. Ça s'est glacé. Immédiatement, je suis resté immobile, sans dire mot, il me... Alors finalement, il a fallu que justement le yacht des milliardaires envoie ses matelots pour venir essayer de me sortir, parce que ils m'ont sorti comme ça, c'était la défaite. Voilà. Et alors, bon, pour d'autres raisons, lorsque je suis rentré, et bon, j'ai pris, et c'est là où j'ai pris la décision de prendre le maquis. Mais y a une chose qui a beaucoup aidé, c'est la révélation de Bataille, qui a publié en 1941 un article sur Nietzsche. Et si je suis rentré, bien sûr, allé dans la Kiel, à la Berberolle, hein, c'est à cause de Nietzsche. Pas, il n'y a pas un motif politique, patriotique, mais zéro. Hein, Nietzsche. Et c'est parti. Bon, il s'est passé là, et puis, il y a eu il y a eu quand même une période très très remplie, puisque bon, j'ai quand même fait 5 prisons, 3 camps de concentration, c'est quand même. Bon, il y a même eu une évasion qui m'a permis de rejoindre l'Angleterre où je suis devenu parachutiste. Alors, la guerre était presque finie, et il y avait eu, lorsque les SAS, parce que c'était mon régiment, Special Air Service, les SAS sont arrivés en France, à ce moment-là, je faisais partie du lot, mais je n'ai eu une idée en tête, étant donné que les transports à l'époque étaient gratuits, d'aller tout de suite voir ma mère, parce que mon père avait été tué, mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est l'anarchie. Ma mère qui se trouvait avait en même temps, disons, entre la mort de mon père et elle se trouvant devant le fait de ma condamnation à mort. Alors, ce qu'il avait jeté dans un mysticisme accru, enfin, etc. Alors, je voulais la rassurer, et comme on ne payait pas, alors, à peine arrivé à Vincennes où on avait le dépôt, je suis allé à la gare de Lyon, j'ai pris le train, et je suis arrivé à Monaco. Ma mère, formidable, formidable. Et puis, je vois une espèce de mendiant dans le coin. Et je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et il m'appelle et il me sort signe. Et puis je dis, mais c'est pas possible. C'était le frère. Comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Alors, et il me dit, Nicole, elle n'est pas là. Bon, Nicole n'est pas là. Oui, elle n'a pas souffert, ça c'était le premier jour. Et là, il me raconte qu'il sort d'Auschwitz, qu'il a servi à Mengele aux expériences, et c'est ce qui explique ce merveilleux athlète en l'affaire de Nantes, la déportation, machin, parce qu'ils étaient juifs tous les deux, j'ai oublié de vous dire. Il me dit, Nicole, est parti, et Guillaume, d'une façon très. Elle devait s'attendre parce qu'elle n'a pris ni brosse à dents, ni savon, ni essayer de prendre quelques provisions, parce qu'on savait où on allait. On sait, bon, je ne vais pas me dire pitié-beau, on savait. Et elle est partie avec une seule chose, un livre. Le Sefer Yetzira. Et alors, il est évident que c'est le genre de première chose à faire avant même, disons, c'était une permission que j'ai demandé au lieutenant Leblanc pour pouvoir aller à Auschwitz, parce qu'elle était passée à la chambre à gaz, etc., pour essayer de retrouver quelque chose d'elle. Alors, et surtout, tout ce que je connaissais des camps, parce que j'ai passé quand même un certain temps dans l'un ou dans l'autre, etc. Et donc, il y avait quelque chose, il fallait. C'est un musée, vous pouvez y aller, au musée d'Auschwitz, actuellement. Hein, il y a un petit.
tout à fait sur la troisième planche, dans un coin de mur, comme ça, troisième planche, il y a une robe, c'était sa robe, elle avait 15 ans. Hein? De jeune fille. Et puis dessus, il y a le Sefer Yetzirah. Alors, Sefer Yetzirah, je traduis, livre de la création. Voilà. Et depuis, il est évident que, d'ailleurs, le coup de téléphone d'Elie Wiesel, tout à l'heure, etc., tout ça est conséquent de. Bon, rechercher ce livre et savoir. Alors, je suis dans la Kabbale, je me suis mis dans tout un. Il fallait que je sache. Voilà. Pour l'instant, la seule idée pour essayer de, non pas d'exorciser, mais de faire de Nicole un chant, donc qu'elle soit toujours vivante là à côté, parce que Nicole, c'est pour ça que je t'appelle tout à l'heure. Et donc, il y a un petit extrait dans la didascalie, c'est une didascalie se promenant seule dans un théâtre vide. Vous voyez tout ce que peut se dire une didascalie. Et alors, il y a un chapitre que d'ailleurs, qu'il a repris, la didascalie, il a été édité déjà, oui. Il y a un chapitre sur lequel s'est penché Marc, là, et au moment de vous lire mon poème, je sais, hein, en vous lisant, non pas de donner une chance, mais de vous informer qu'il y eut un poème un certain 26 janvier. Comme c'est 26 janvier, on va faire pour ça. Voilà. Alors, c'est la didascalie qui parle. Le mot doit conduire à la libération de l'étincelle qui est en chacun, jusqu'à l'embrasement de l'être, et par multiplication de celui-ci à l'univers. Aucun élitisme, pourtant. L'univers est la structure de notre être. Il en est aussi moralité et spectacle en même temps. L'adieu de Nicole Gompers au quai de la gare, nous le reconstituons ainsi dans notre didascalie. Les quais de gare répondront aux quais de gare. Notre voyage durant, nous n'arriverons pas. Nous continuerons notre voyage, même lorsque les quais de gare auront disparu. Les sondeurs commando, qui par ironie concentrationnaire devenaient soit commando du ciel, soit groupe de l'ascension, et qui l'ont transporté de la chambre à gaz au four crématoire, ont dit, ces 15 ans s'étaient transformés en sourires lumineux sur toute l'étendue du corps qui allait disparaître. Malgré celui qui vaticinait son combat, Mein Kampf, en morts industrielles, les animaux de Ninive, l'ange de la forêt et les Ilmergis l'attendaient. Ceux pour qui la fumée a transformé le ciel d'Auschwitz en mémoire se souviennent. Cheveux blonds, yeux bleus, comme la fille du Baal Shem Tov. Et elle est devenue feu d'un seul coup. Nous chercherons à travers le temps et l'espace du spectacle à la dire. Et à nous dire, en même temps et espace, que nous la disons. Quelle que soit la forêt où nous sommes partis à ta recherche, quel que soit le sentier où tu pousses, fleurs, quelles que soient les branches d'arbres sur lesquels tu chantes, oiseau. Quel que soit le bourgeon dans lequel tu souris, sève. Quelles que soient les herbes avec lesquelles tu te multiplies, quatre saisons. Quelle que soit la nuit dont tu deviens l'alphabet et son mystère, une étoile porte ton nom, Nicole. Te voilà cantique des cantiques, où le regard bleu de tes yeux est le regard de la création sur nous.
Thank you.